l'incendie chez Imperator. Donc 18h06, les pompiers sont prévenus de l'incendie, ils envoient des véhicules. Nos policiers municipaux étaient déjà sur place, ils me téléphonent à 18h10. Je descends et là je vois une immense fumée qui a envahi tout le parking Leclerc. Donc première inquiétude, c'est cette fumée, ben, est-ce qu'elle est toxique ou pas? Mais vraiment une fumée très noire, hein, et très opaque. Donc après je suis allé jusqu'à la rue Léo Lagrange et là j'ai vu le bâtiment en feu, mais avec des flammes qui allaient très très haut. Et puis des véhicules de pompiers qui arrivaient de partout, donc des camions grande échelle, des véhicules de secours, enfin, c'était assez hallucinant. Après, je me suis rendu rue de l'impasse de la Bargette pour voir quel était l'impact de l'incendie derrière le bâtiment Imperator. Donc là, ça n'avait pas bougé. J'ai vu les gens d'Enedis leur dire de couper absolument toute l'alimentation électrique des bâtiments. Et puis après, on est resté sur place. Il y avait donc Rémi qui nous a rejoints. Les policiers faisaient la circulation. Donc voilà, ça s'est passé comme ça. Donc apparemment, c'est Esposito Pizza qui a brûlé son four. J'ai discuté avec le gars qui a un magasin d'électricité. Il me dit, moi, je suis sorti à 18h10 de mon magasin. J'ai vu la cheminée qui flambait. Je me suis dit, bon, c'est plus la peine d'insister. Il avait appelé les pompiers. Le problème, c'est que là-bas, les cloisons ne sont pas hermétiques jusqu'en haut. Ce qui fait que les flammes sont passées d'une entreprise à une autre tranquillement. Et ça a mis le feu donc aux cloisons, qui sont des cloisons en BA13, mais avec des gros pavés de mousse polyuréthane très condensée, ce qui explique la fumée noire. L'inquiétude des pompiers, c'était qu'il y avait à côté l'imprimerie, avec des rouleaux de papier, de l'encre, des produits inflammables. Il y a à côté le fabricant de palettes. Il y a les cuves de chez Leclerc, la station-service. Il y avait un vent très, très, très important. Alors le vent déporter la fumée, mais en même temps, ça lui a permis de dissoudre un peu, de dissiper les fumées. Donc voilà un petit peu la situation. Dans la nuit, j'ai eu un message du sous-préfet qui me disait je serai demain à 9h30 sur site. Donc j'y suis allé samedi matin. Donc concrètement, c'est parti donc le feu de chez Pizza Esposito, vraisemblablement par le conduit du four à bois. Ça a gagné donc Alves Plomberie. Alors lui, c'est le plus impacté parce que il a tout son dépôt sur le devant, c'est ce qui a brûlé. Et il a une flotte d'une quinzaine de véhicules. Heureusement, un vendredi sur deux, il ne travaille pas l'après-midi. Donc ceux qui avaient un véhicule à midi l'ont gardé. Par contre, les 7 véhicules qui étaient remisés ont tous brûlé. Il a aussi pas mal de matériel qui a brûlé. Par contre, les bureaux qui sont de l'autre côté n'ont pas été touchés. Donc en tout, on a eu plus d'une centaine de pompiers sur site, 45 véhicules. Toute la nuit, donc ils ont installé un PC de crise. Il y avait même un véhicule cuisine pour alimenter les pompiers. Il y avait un véhicule sanitaire pour tester les pompiers, nos policiers, les policiers nationaux qui sont venus à tour de rôle pour voir s'ils n'étaient pas intoxiqués. Donc ça a été quand même quelque chose d'assez impressionnant. Donc maintenant, tout est rentré dans l'ordre, entre guillemets, au niveau du feu. À 10h30, quand j'étais avec le colonel des pompiers, il m'a dit « Je ne déclare pas le feu éteint parce que dans la nuit, il y avait à nouveau eu des reprises de feu. » Donc on peut considérer qu'il y a en gros 1700 m² qui ont été détruits par le feu sur les 15 000 m² du site. Après, on verra bien au niveau des assurances ce qu'il en sera ressorti. Alves Plomberie m'a dit « Moi, je ne suis pas inquiet en termes de cessation d'activité. » Il dit « Au contraire, j'ai beaucoup de chantiers. Il faut que je me débrouille coûte que coûte pour garder ces chantiers. » Et les maintenir. Alors, ce qui est formidable, c'est qu'il a en gros une quarantaine de salariés. Samedi matin, il y avait une trentaine sur site pour l'aider à ranger, etc. On dit on va continuer et tout. Donc, il était plus inquiet par la sécurité du site en disant il ne faudrait pas qu'il y ait des gens qui viennent piller les stocks. Donc, il devait voir avec son assureur. Et la police nationale a maintenu des équipages dans la nuit de samedi à dimanche. Donc, voilà ce qui s'est passé concrètement. Après, on peut. Il y a des chiffres, etc. Mais c'est en gros ça, c'est 1700 m² dans des situations très, très, très précaires et beaucoup d'inquiétudes de la part des pompiers à un moment donné. Et j'étais impressionné par leur travail. Je suis rentré dans le véhicule PC. Là, franchement, c'était impressionnant. Il y avait 4 pompiers sur des ordinateurs avec tous les plans. Ils avaient par entreprise le nombre de salariés, la disposition. Enfin, un truc incroyable. Et oui, ils chiffraient les dégâts. À un moment, ils ont voulu aller chercher de l'eau. Alors, ils voulaient aller rue de la Tour. Alors, Frédéric Ayel leur a dit, mais non, passez par derrière vers le CTM. Ils craignaient de ne pas avoir assez de débit, donc d'être obligés de prendre de l'eau dans le Furan. Enfin, Bon, ça s'est réglé parce qu'ils ont pu éteindre l'incendie assez rapidement et surtout, ça n'a pas gagné l'arrière des bâtiments. Donc voilà. Et c'était assez inquiétant, et surtout la fumée. Donc voilà les nouvelles du front Imperator. Bien, ben on va peut-être pouvoir commencer maintenant, si vous en êtes d'accord, le conseil municipal. Donc, je demande à Mireille Papin si elle veut bien en assumer le secrétariat, comme à l'habitude. Nous avons les excuses de Sylvie Barbe, qui donne procuration à Mireille Papin, de Pierre Achard, qui donne procuration à Antoine Di Paolo, et de Corinne Mourgue, qui donne procuration à Rémi Mounier. Et donc, Hugo devrait nous rejoindre, si toutefois il peut arriver à Saint-Étienne par le train. Bien, le premier point du jour, c'est l'approbation de la séance précédente. Est-ce que vous avez des questions par rapport à la verbalisation de cette séance? Non? Donc, on va passer au vote, l'approbation du procès-verbal. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Donc, il est adopté à l'unanimité et je vous en remercie. Maintenant, je vais passer la parole pendant un long moment à Michel Bisaccia, qui va nous présenter les comptes 2024, que ce soit pour la commune ou le service des pompes funèbres, pour la dernière année. Les affectations de résultats et bien sûr les budgets 2025. Michel Bisaccia, à toi.
Bonsoir. Oui, alors donc je vais vous faire une présentation un peu des finances du compte administratif et du budget 2025, mais de la commune. Hein, le budget pompes funèbres, on en parlera lorsqu'on prendra les délibérations. Et après cette présentation, effectivement, on votera toutes les délibérations qui découlent qui sont nécessaires lorsqu'on approuve à la fois et le compte administratif et le budget primitif. Voilà. Donc sur le compte administratif 2024. Ça a été une année exceptionnelle en investissement, puisque c'est la première année autant au niveau des dépenses qu'au niveau des recettes, puisque effectivement c'est la première fois que la commune, enfin que tout au moins depuis 2020 et depuis nombreuses années auparavant, qu'on avait plus de 7 millions de dépenses au niveau investissement. Et je vous expliquerai au fur et à mesure de l'avance du compte administratif, bien entendu, à quoi c'est dû. Donc, on a aussi, bien entendu, fait toujours notre poursuite la maîtrise des dépenses de fonctionnement. Alors effectivement, en 2024, les fonctionnements ont augmenté, les dépenses de fonctionnement ont augmenté de 2,64%. Vous savez que depuis quelques années, l'État demande aux collectivités locales de faire des efforts et de réduire leurs dépenses. Et il nous demande, par exemple, en dépenses de fonctionnement, de ne pas dépasser les 3% maximum d'augmentation pour rester dans les clous de ce qui est convenable de faire. Alors effectivement, pourquoi encore une hausse? Toutes les années, on a une hausse. Ben, je te rappelle toujours la même chose. On a déjà, vous savez, un personnel très important, hein, puisque ça représente pratiquement 57% de nos dépenses de fonctionnement. Et ben, ce personnel-là, on a toujours ce qu'on appelle le GVT, c'est-à-dire le glissement vieillesse-technicité, c'est-à-dire ce sont des personnels qui augmentent en échelon, en indice, en grade, et qui forcément sont payés un petit peu plus cher. Frédéric, il y a Hugo qui est à la porte. Merci. Plus effectivement, vous savez, en 2023, il y a eu quand même un petit peu la poursuite de l'inflation et l'énergie qui a continué à augmenter de façon importante. Donc effectivement, on a 2,64% d'augmentation, mais si on ne faisait pas attention et si on ne contrôlait pas les dépenses de façon drastique, ça ne serait pas 2% qu'on aurait, mais beaucoup plus. En plus, sur 2023, au niveau du personnel, on a eu une hausse de toute la catégorie C, une augmentation de points d'indice qui a augmenté de façon importante. Et ça, on ne le maîtrise pas parce que c'est l'État qui décide et c'est les collectivités locales qui payent. Donc, on a quand même une capacité, on a eu une capacité d'autofinancement importante. Alors, c'est en 2024, hein, En 2024, pardon, j'ai oublié de changer le chiffre. On a autofinancé en 2023 1 479 126 parce qu'effectivement, fin 2023, on avait une capacité, un excédent de fonctionnement qui était de plus de 3 millions. Donc, sur ces 3 millions, un peu plus de 3, il y avait 3 millions 4 de voilà. On a pu, sur ces 3 millions 4, prendre 1 479 000 pour financer nos investissements. Vous savez, les investissements, ben, ça se finance de plusieurs façons. Soit, effectivement, on a l'argent pour les financer, soit on emprunte. Et là, effectivement, notre autofinancement qu'on a gardé de toutes les années antérieures, c'est-à-dire l'autofinancement sur 2024, on a en fonctionnement économisé plus de 880 000 euros qui s'ajoutaient à nos excédents reportés, ce qui fait qu'on a eu un excédent total, je vais le retrouver, de 2 millions. Je vais le retrouver ici, je retrouve mon chiffre, excusez-moi. Voilà, bon. Je vais vous le retrouver, c'est pas grave, je vous le redonnerai tout à l'heure. Je dois l'avoir dans les chiffres. Donc effectivement, on a dépensé 1 479 000 sur l'investissement et ça nous a laissé quand même un excédent reporté. Bah oui, il est là en 2024 de 2 480 165. Alors effectivement, il est moins important que les 3 400 000 de 2023, mais si on rajoute les 1 500 000, effectivement, il est plus important. Et puis on a bien entendu, on a poursuivi nos projets. Alors ça c'est plutôt pour le budget 2025, puisqu'on a lancé, vous savez, le troisième dossier dont on a parlé plusieurs fois, le Stade Camille de Rochetaillé, avec bien entendu en 2023 essentiellement la fin de l'école Jules Verne, la fin du grand travaux de l'école Jules Verne, et puis tous les investissements courants qu'on maintient quand même, parce qu'il faut quand même continuer à changer les véhicules quand on a besoin, à réparer des bâtiments, enfin à faire en investissement. On ne se concentre pas que sur une seule grosse opération. Voilà. Voilà. Donc, en dépenses de fonctionnement en 2024, on a donc dépensé 11 187 617 euros, qui sont comment? Qui sont répartis toujours un peu de la même manière. On a toujours une structure de budget qui est identique, c'est-à-dire avec une charge de personnel qui diminue quand même, puisqu'on est sur 2024 à 52%. On est sur les charges générales à 17%, les charges financières 1%, vous voyez, c'est pas très important, c'est les intérêts, et les autres charges sur 8%. Alors les charges de personnel, toujours même cause, mêmes effets, beaucoup de services, donc beaucoup de personnel, et à partir de là, une charge de personnel qui est importante et dont la charge financière, comme je vous l'explique, augmente d'année en année. Alors on a quand même baissé le nombre de personnels. Mais les charges augmentent quand même, dues justement à ces dépenses qui ne nous sont pas imputables, mais qui sont automatiques lorsqu'on a du personnel. En face, on a reçu 13 677 782 euros. Pourquoi ? Alors, les contributions directes, 34%. Les contributions directes, en 2023, on en a reçu plus qu'on en avait prévu, et ça a augmenté de façon importante. Alors, deux raisons. Parce que 2023, c'est l'année, vous savez, où il y a eu quand même une inflation importante. Et donc, les bases fiscales qui nous servent pour percevoir les taxes foncières, les bases, c'est l'État qui décide de l'augmenter. Il y a une partie qui est décidée par l'État et une partie qui définit les bases sur lesquelles nous, les communes, on applique un taux. Et les bases fiscales en 2023 ont augmenté de 3,6% parce que l'inflation était importante. L'augmentation, elle est liée à l'inflation. Donc, une inflation importante, une augmentation des bases fiscales importante. Et puis, il y a eu aussi plus de contribuables parce que je pense qu'on a pris en charge certains bâtiments qui étaient exonérés de taxes foncières depuis 2 ans et qui ne le sont plus maintenant. Voilà. Atténuation de charges, 1%, ça c'est ce qu'on nous rembourse quand le personnel est en congé longue maladie ou en arrêt de travail. Les attributions de compensation de Saint-Étienne Métropole sont toujours pareilles puisqu'elles sont fixées, elles sont figées, donc elles sont à 16%. Les autres taxes nous ont rapporté 8%. Les ventes de produits et services, 5%, ça c'est ce que payent les usagers pour nos services, que ce soit la cantine, la crèche ou l'école de musique ou le NEC. On a quand même les dotations et participations pour 8% et les produits exceptionnels. Alors, l'excédent reporté pour 12%, c'est ce que je vous ai dit, ce qu'on a conservé en fonctionnement qu'on n'a pas basculé en investissement, parce que je vous rappelle la règle, c'est que lorsqu'on bascule de l'argent du fonctionnement à l'investissement, on ne peut plus faire l'inverse. Donc, effectivement, on bascule au compte-gouttes et aux besoins, parce que sinon, après, ça ne remonte pas et ça risque de nous perturber et de nous, surtout de nous punir pour le fonctionnement. Donc, on le fait quand on en a besoin. Et les produits exceptionnels pour 15%, c'est à la vente des terrains qu'on a effectués en 2023.
Je voudrais revenir sur la notion d'excédent reporté. L'excédent reporté, il se cumule année après année. Ça veut dire qu'en fin d'année, et là on va le faire, fin 2024, on n'affecte qu'une partie aux investissements et ce qui reste devient une recette de l'année nouvelle. Ce n'est pas un excédent uniquement sur l'année. Donc cet excédent qui se cumule, on le réaffecte, on le remet en recette. Et évidemment, à la fin de l'année suivante, il y a à nouveau un excédent. Mais c'est un excédent qui est dû en particulier, en partie, à l'excédent qu'on avait déjà en début d'année. Il faut bien comprendre ça. Parce que là, c'est un résultat solde. Hein. 13 millions moins 11 millions, ça fait 2,5 millions. Mais ce n'est pas le résultat d'un exercice. C'est le résultat de l'exercice 2024, dans lequel, en recette, il y a les excédents cumulés des années précédentes. Ou bien il n'y a pas une zone quelque part où on met de l'argent de côté et on n'y touche plus. Il est réinjecté dans nos recettes.
Voilà. Effectivement, c'est les économies cumulées tout au long des années. Donc voilà pour le fonctionnement. Donc quand même un excédent qui est intéressant vu le montant des investissements qu'on a fait en 2024. Donc vous voyez, on a dépensé 8 000. Alors là, le chiffre n'est pas le même que tout à l'heure, mais parce que là, je n'ai pris que les opérations réelles. J'ai pas pris les opérations d'ordre. Donc effectivement, ce qu'on appelle les opérations d'ordre, c'est les opérations comme les ventes de terrain et tout, qui sont en fait des jeux d'écriture parce qu'on les retrouve en investissement, on les retrouve en fonctionnement. Moi, là, je vous ai pris les dépenses réelles, c'est-à-dire les dépenses de personnel et toutes les autres charges. Donc là, effectivement, vous voyez que ça augmente de façon régulière, mais on a dépensé 8 711 000 sur ce qu'on avait prévu, 10 114 000, parce que je vous rappelle que quand on fait un budget, on a toujours tendance à bien un peu augmenter les dépenses parce qu'on a toujours besoin, surtout que maintenant, il n'existe plus dans la nouvelle nomenclature, il n'existe plus le chapitre qui s'appelait « Dépenses imprévues ». Qui nous aidait bien parce que ça faisait une espèce de petite poche où on pouvait prendre de l'argent si on en avait besoin. Donc, on augmente un peu les dépenses et on minimise les recettes, bien entendu, parce qu'il y a déjà des recettes qui sont difficiles à prévoir, comme tout ce que nous donne la CAF sur la petite enfance, parce qu'il y a des versements, il y a des régularisations, il y a des acomptes. Enfin bon, on préfère minimiser et puis ça arrive plus, tant mieux. C'est autant qu'on aura dans l'excédent. Voilà. Alors là, on revient justement sur les excédents de fonctionnement. Donc voilà, je vous ai remis excédent de 2 480 000 en 2024, non compris l'autofinancement des investissements pour 1 479 000. Voilà, donc on voit quand même que nos excédents de fonctionnement, qui avaient été surtout inquiétants, alors un niveau de marge insuffisant, il est surtout sur 2019, hein, parce que sinon, après, on met un niveau de marge satisfaisant, on est au même point qu'en 2018. En fait, le niveau de marge insatisfaisant, c'était 14%, parce que ça, effectivement, en dessous de 20%, c'est un peu problématique. C'est pas problématique, mais c'est quand même, voilà. Par contre, effectivement, si on reprend le niveau de marge qu'on avait en 2023, on était à 26%, c'est là où, voilà. Et cette année, effectivement, on n'est qu'à 18%, mais on a autofinancé 1,5 million d'investissements, ce qu'on n'a certainement pas fait en 2018, puisqu'en 2018, on avait à peine 400 ou 500 000 euros de dépenses d'investissement. Voilà. Alors sur l'investissement, les camemberts. Donc on a dépensé 5 339 351 euros. On a obtenu 4 930 575 euros. Alors là, effectivement, on est en déficit de 409 376. Mais je vous rappelle que autant on n'a absolument pas le droit d'être en déficit en fonctionnement, autant un investissement, ça n'est pas inquiétant. Et pourquoi ? Parce que tout simplement, le système des subventions fait qu'on doit payer les travaux. Alors, on a certes des acomptes de subventions pour nous les financer en face, mais on ne touche le solde que lorsque les travaux sont terminés. Donc, la plus grosse partie des subventions de l'école Jules Verne apparaîtront sur 2025, puisqu'elles ont été effectivement versées pour la plus grosse partie sur 2025. Donc, les travaux de Jules Ferry en dépenses représentent 60% de nos investissements, donc un chiffre important, hein. Les travaux en régie, alors ça c'est tous les travaux que font notre personnel pour l'investissement, lorsqu'ils refont un bout de rue, lorsqu'ils refont un trottoir, voilà, tout ce qui est considéré comme de l'investissement. Le remboursement de l'emprunt pour 14%, donc là on reste dans des limites tout à fait raisonnables. On retrouve aussi nos études et logiciels, nos subventions d'équipement, ça c'est tout ce qu'on paye par exemple au ciel, vous savez, quand on fait des travaux. Quand c'est des travaux très importants qu'on paye au ciel, ils nous servent un peu de banquier, on leur paye sur plusieurs années. Donc c'est là qu'on retrouve notre argent. On a les acquisitions foncières et les travaux de bâtiments et voiries. Donc vous voyez, on a quand même continué en dehors des travaux de Jules Ferry, qui est maintenant devenu Jules Verne, on a quand même continué à faire des investissements et à faire face aux besoins qu'on a en investissement sur la commune. Les recettes, alors elles se caractérisent comment ? Ben essentiellement, vous le voyez, le plus gros camembert, c'est les plus-values sur cession. Effectivement, ce montant d'investissement n'a pu se faire, je le répète, que par deux conditions essentielles, c'est-à-dire les cessions de terrain, puisqu'on a vendu le terrain du lycée Nord, on a vendu le terrain du Charpenais. On a vendu le terrain de Jean Massé, mais là, il n'apparaît pas sur 2024, puisqu'on ne touchera l'argent qu'en 2025, puisque la vente n'est encore pas signée. Voilà. Donc, tout ça, ça a quand même fait de l'argent de façon importante. Donc, ça nous a permis. Et puis, ça nous a permis de faire ces travaux. Et puis, bien entendu, ça a été aussi les subventions qu'on retrouve. Alors, pas de façon très importante sur 2023. On les retrouve qu'à hauteur de 2% parce qu'on a simplement, comme je vous dis, reçu que des acomptes. Mais par contre, que vous verrez sur le budget 2024, les subventions apparaissent de façon beaucoup plus importante. Donc ça, c'est effectivement, c'est le plan de relance métropolitain plus les bonnes nouvelles qu'on a eues sur les subventions de Jules Verne, hein, que ce soit les subventions de l'État pour presque 1,2 million, du département pour 600 000 euros et d'autres encore subventions qui ont été de façon très importante. Et puis, on voit aussi qu'on a quand même autofinancé nos investissements à hauteur de 30%. Affectation de l'excédent de fonctionnement, les 1 479 000 dont je vous parlais tout à l'heure, ils apparaissent là en recettes. C'est-à-dire qu'on a financé une partie de nos investissements avec nos économies. En fait, ça revient à ça si on veut simplifier. Voilà, ce qui est très important. Et si on reprenait les camemberts des années antérieures, l'affectation de fonctionnement, on n'en faisait pas beaucoup, tout simplement parce qu'on n'en avait pas énormément. Voilà pour le compte administratif. Vous avez des questions ?
Je reviens sur l'affectation de la capacité d'autofinancement. Il y a une règle absolue. On doit couvrir avec notre capacité d'autofinancement les annuités d'emprunt, impérativement. On n'emprunte pas pour rembourser de l'emprunt. Et actuellement, on le verra sur 2025, c'est en gros 770 000 euros de remboursement chaque année. Donc il faut au moins qu'on ait ça en réserve pour couvrir les annuités.
Et l'excédent d'investissement. Et le déficit d'investissement.
Mais ça, c'est une opération qui va se neutraliser en 2025. Voilà. Mais les remboursements d'annuités, on connaît à l'avance.
Voilà. C'est pour ça que sur le 1068 que vous verrez tout à l'heure, quand on fera la délibération de l'affectation du financement, il y a la couverture aussi du déficit d'investissement de l'année dernière. Voilà, donc le compte administratif, on est parti. Budget primitif maintenant. On est parti sur 10 407 492 euros, donc à peu près à quelques centaines, à 100 ou 200 000 euros, à peu près le même budget que l'année dernière. On retrouve toujours nos charges de personnel. Alors, elles ont un petit peu augmenté. Pourquoi ? Parce qu'on a un petit peu gonflé les prévisions. Parce que déjà, on sait qu'on a l'augmentation du point de l'indice, du point de retraite de la CNRACL, c'est-à-dire de la caisse de retraite principale des agents titulaires pour 3 points cette année. On ne sait pas si, dans le courant de l'année 2025, il ne peut pas y avoir de nouveau une revalorisation de la grille indiciaire, d'autres mesures, une augmentation du point d'indice. Donc, on a préféré effectivement gonfler un peu cette partie-là, ce qui fait qu'elle est plus importante en prévision qu'en réalisation, ce qui est normal. Les charges générales, qui représentent effectivement une part importante, un quart du budget. Les charges financières, ça c'est toujours, je vous rappelle, c'est les intérêts, c'est pour 1%. Et les autres charges, c'est tout ce qu'on paye de participation, par exemple, au service d'incendie, des choses comme ça. Il y a énormément de choses qu'on paye sur le fonctionnement. les assurances, tout ça, ben ça représente quand même des sommes importantes. Comment finance-t-on ce budget de fonds?
Je vais revenir sur les dépenses. On parlait du SDIS, c'est 250 000 euros par an hein, qu'on verse au SDIS. Sur les charges de personnel, je l'ai déjà expliqué, mais c'est quand même important. L'an dernier, l'État a décidé d'augmenter d'un point la cotisation employeur, donc sur les cotisations pour la caisse de retraite des agents des collectivités territoriales. Ce 1% l'an dernier a été compensé. Au 1er janvier 2025, c'est 3%, 3 points. Pour nous, c'est 80 000 euros cette année. Mais il y aura également 3 points en 2026, en 2027 et en 2028. Ce qui fait que cumulé, c'est 350 000 euros qui seront versés à la caisse de retraite sur nos fonds propres. Dans le même temps, et on le verra dans les recettes, l'État a décidé à cibler environ 4 500 communes dites riches sur l'ensemble de notre territoire pour aller leur prélever directement, et je dis bien directement, sur nos recettes fiscales, donc sur la taxe foncière en ce qui nous concerne, pour constituer une réserve qui devrait nous être remboursée par tiers à partir de 2026. C'est environ 40 000 euros qu'ils vont nous prélever. Donc d'un côté, mécaniquement, on doit augmenter nos dépenses. De l'autre côté, mécaniquement, on réduit nos recettes. Vous comprenez bien qu'à un moment donné, ça va devenir difficile.
Effectivement. Et puis c'est toujours des décisions qui sont prises par l'État, mais qui impactent directement les finances locales. Et sur lesquelles on n'est pas consulté et on reçoit la circulaire qui nous dit, voilà, c'est comme ça et pas autrement. Voilà. Alors, comment finance-t-on ces 10 407 000 par les contributions directes pour 41%. Cette année, alors j'ai plus le chiffre, c'est 1,6, je crois, l'augmentation des bases fiscales. 1,7. L'augmentation des bases fiscales, c'est 1,7%. Vous voyez, c'est beaucoup moins que l'année dernière qui était 3,6. Mais bon, comme on part sur des bases, bon, déjà plus. On part sur un nombre de logements qui sont plus importants, donc on a maintenu un chiffre important. La nouvelle, c'est que du coup, comme on a quand même une situation financière qui est quand même saine, on a décidé de ne pas augmenter la taxe foncière en 2025, parce que bon, bah, pour l'instant, on va décider. On n'a pas pris dans nos prévisions budgétaires, on n'a pas calculé une augmentation de la taxe foncière. Après, si le Conseil décide de l'augmenter, ben, tant mieux, ça fera des recettes en plus. Mais voilà, la conclusion, c'est qu'on peut bâtir un budget primitif sans augmenter la taxe foncière en 2025. La vente des produits et services, toujours la participation des usagers. L'excédent reporté, donc, pour 20%. Hein, voilà, ça, c'est ce qu'on a, ce qui nous reste, les 2 millions, la différence entre les 2 480 000 moins ce qu'on affectera en investissement, mais ça, je vous en parlerai tout à l'heure. Les dotations et participations, les taxes, l'attribution de compensation de Saint-Étienne Métropole, voilà, tout ça nous permet de financer, c'est toujours un peu la même répartition. La plus grosse partie, c'est bien entendu les contributions directes. Voilà. Sur les investissements, alors l'année sera essentiellement consacrée à le stade Camille, voilà, la rénovation du stade Camille de Rochetaillée. Bon, je reviens pas dessus, hein, on en a parlé suffisamment dans les différentes réunions, avec deux terrains de tennis couverts, deux cours extérieurs, deux padels pour ce qui concerne le tennis, plus un stade en synthétique qui sera remis aux normes avec éclairage gradin. Et un stade de foot, un demi-stade de foot pour les entraînements et pour éventuellement les parties de foot à 7 ou à 5, je ne sais plus. Mais bien entendu, on va essayer aussi de prévoir d'autres travaux en fonction de nos possibilités financières, hein, bien sûr, et toujours avec la recherche des subventions, c'est-à-dire sur Camille de Rochetaillée, on a redemandé des subventions à la région, on a redemandé des subventions à l'État. Et bien entendu, on a demandé le troisième dossier du plan de relance métropolitain, qui sera le dernier, puisque de toute façon, là maintenant, on est passé, je pense, dans les derniers dossiers, puisqu'il fallait que les travaux soient débutés avant juin 2024 pour que ça puisse compter. Et si vous voulez, on a courant juin, on a démoli le court de tennis qui menaçait de s'écrouler suite à la grêle et à l'orage. Et donc, du coup, ça a effectivement compté comme un début de réalisation de notre projet. Donc, on a pu mettre ce dossier dans le troisième dossier de Métropole. Voilà, donc on a d'autres prévisions. La fin de l'aménagement du centre-bourg. Alors, vous avez vu que la démolition, elle est déjà bien, bien avancée, puisque tout l'îlot est tombé. Il ne reste plus que l'atelier à démolir. Et l'atelier, la démolition devrait débuter début du mois prochain, début d'avril. Voilà. Et vous savez que ça a un coût. Cette opération, elle avait un coût d'1,5 million à peu près, hein, parce que ces bâtiments, il a fallu les acheter, il a fallu payer les propriétaires, il a fallu payer une indemnité d'éviction aux propriétaires du bar-tabac. Et voilà, et plus les frais de travaux de démolition, c'est une opération qui représente 1,5 million. Mais heureusement, déjà, on aura le prix de la vente du terrain, puisque vous savez que sur ce terrain, il va y avoir un nouveau bâtiment d'habitation. Et bien entendu, on avait prévu, et depuis qu'on est là, depuis 2020, on avait décidé de mettre une provision de 125 000 € tous les ans. Ce qui fait que normalement, la fin de l'aménagement du centre-bourg ne devrait pas nous coûter d'argent, puisqu'on a 650 000 euros qui sont déjà en caisse, puisque c'est des provisions. On a la vente du terrain et on aura aussi une participation d'Epora, parce que sur le déficit, Epora prend une partie à sa charge. Ça fait partie du deal qui était du départ. Donc, on devrait avoir une opération pour 2025, hein, parce que je veux bien dire que les 650 000, c'est quand même le budget communal qui l'a supporté. Mais pour 2025, on ne devrait pas avoir une énorme somme à sortir pour pouvoir finir cette
opération. Sans être trop optimiste, et 1,5 million, c'est le coût que nous présentera Epora. 800 000 euros, alors peu importe comment c'est réparti, hein, de vente à Madame Arnaud, donc il reste 700 000. C'est notre déficit sur l'opération. Sur ce déficit, Epora en prend une partie. Sachant que nous, on aura provisionné 650 000. Donc, on devrait même être en solde légèrement en excédent. Donc, on a bien fait de provisionner. Et puis, on n'attendait pas de vendre à un prix aussi intéressant. Je sais qu'en 2020, quand on avait parlé, on était plutôt sur des estimations à une vente à 600 ou 700 000. Là, on est monté à 800. Et on n'avait pas intégré la prise en charge par Epora d'une partie du déficit. Donc, c'est une opération qui non seulement est neutre, mais pourrait être légèrement excédentaire.
Voilà. La réalisation de la dernière tranche de la vidéosurveillance, hein, vous savez que là, la deuxième tranche vient de se finir et la dernière tranche sera prévue pour la fin de l'année 2025, ce qui nous permettra d'avoir à peu près une cinquantaine de mâts pour 95 caméras à peu près et tous les entrées et sorties de Saint-Priest-en-Jarret qui bénéficieront de la vidéosurveillance. Et puis on va lancer, alors c'est pas géothermique, hein, c'est une étude thermique, je me suis trompée, on met pas de la géothermie, mais en fait on va lancer une étude pour améliorer le chauffage et éventuellement le rafraîchissement de l'école Georges Sand, parce que c'est vrai que c'est une école qui a été conçue dans des années où il y avait heureusement à l'époque on était peut-être un peu inconscient, mais il n'y avait pas de notion d'économie d'énergie et de choses comme ça. C'est une passoire thermique, c'est une école qui est complètement vitrée, avec une verrière en haut, ce qui fait que l'hiver on a froid, en maternelle ils ont 15, on est obligé de chauffer à fond, et en élémentaire ils ont 25, ils ouvrent les fenêtres. Donc c'est pas très écologique ni très rassurant pour nos finances. Et puis, on a fait des gros travaux sur Jules Ferry pour faire une nouvelle école très belle et très fonctionnelle. Il est temps maintenant d'essayer de se tourner un peu sur Georges Sand et déjà de résoudre leur premier problème qui est effectivement, ils ont très très chaud l'été, un peu froid l'hiver et très chaud l'été. Voilà, donc ça, on va au moins lancer une étude pour savoir à quel montant de travaux on doit s'attendre pour mettre cette école de façon plus rationnelle. Et puis, bien entendu, comme toutes les années, les travaux d'investissement courant.
Dans les investissements courants, on a 80 000 euros prévus pour régler le problème de la falaise.
Oui.
80 000 euros. Ce qui fait que si on la rabote, on va arriver au pied du monument. On va se poser la question de savoir comment on fait avec le monument. On a 70 000 euros sur la Villa Saint-Michel. On va attaquer des travaux de nettoyage des combles dès le mois d'avril. On remettra aussi aux normes l'électricité et la chaudière. Et je crois qu'on avait également 10 000 euros d'investis sur les problématiques du cimetière. Ça, c'est des gros postes. Après, il y a toutes les dépenses, je dirais, d'investissement courant en matériel et en mobilier.
Et puis, je crois qu'il y a un véhicule pour le service technique aussi qui doit être changé.
Oui, il y a un camion, 50 000 euros qui a été acheté.
Voilà. Parce que ça aussi, les véhicules des services techniques, ben, c'est comme nos voitures, hein, elles s'usent. De temps en temps, ben, ça passe plus au contrôle technique, donc il faut prévoir le remplacement. Voilà, donc la part de des financements. Donc vous voyez que les travaux de bâtiment et de voirie représentent 54%. Le stade Camille de Rochetaillée est bien entendu dans cette partie-là. Hein, c'est considéré comme des travaux de bâtiment, puisque même si c'est des cours extérieurs, c'est quand même dans cette partie-là. Et on a encore un petit reliquat des travaux de Jules Ferry, qui sont essentiellement les abords extérieurs, enfin les choses comme ça, des petites finitions, qui représentent encore quand même 6% du montant. Vous verrez tout à l'heure sur la délibération qui reprend les chiffres de Jules Ferry, qui a encore une somme qui est prévue pour cette année. Le déficit d'investissement reporté, là, qui représente 4%, donc les 480 000 dont je vous ai parlé tout à l'heure. Le remboursement d'emprunt, qui représente toujours 10%. Études et logiciels, là, c'est là où on trouve les 80 000 euros, par exemple, pour l'étude thermique de Georges Sand. Voilà. Les acquisitions foncières et de matériel pour c'est essentiellement du matériel, hein, on n'achète pas de terrain, mais c'est le chapitre qui s'appelle comme ça, acquisitions foncières et matériel. Comment finance-t-on? Donc, c'est 7 706 275 euros. Eh ben, vous voyez, autant la part sur le compte administratif des subventions apparaissait, mais pas, vous voyez, la part cette année, les subventions d'investissement représentent 55% de nos recettes. Parce que c'est là qu'on va toucher la grosse partie de nos subventions de Jules Ferry. Et en 2026, on retrouvera encore des recettes pour Jules Verne, parce qu'on là, on touchera le fonds de compensation de TVA. Parce que vous savez que la commune paye les travaux TTC et récupère une partie de la TVA. Alors une partie seulement parce qu'on a une TVA à 20% et on n'en récupère que 14%. Enfin, c'est quand même ça. Mais on les récupère avec 2 ans de décalage. Donc sur 2025, on va toucher une petite partie qui correspond à l'année 2023. Mais la plus grosse partie des travaux ayant été payée en 2024, on aura un fonds de compensation de TVA en 2026 qui sera plus important. Donc vous voyez, subvention d'investissement pour 55%. Les dotations, les cessions de matériel, on a cessions de matériel et de parcelles. Oui, il y a encore quelques cessions qui vont essentiellement, bien entendu, la cession de Jean Massé. On affecte l'affectation de l'excédent de fonctionnement. Vous voyez, les 1 479 000, enfin, cette année aussi, on va affecter une partie de l'excédent de fonctionnement. L'amortissement des immobilisations, ça, c'est une opération d'ordre. Voilà. Et vous voyez que l'emprunt, cette année, ne représente que 16%. Et encore, on a réinscrit, si vous voulez, on reste à réaliser. L'année dernière, on avait prévu un emprunt de 600 000 euros. Il nous restait celui de l'année d'avant qu'on n'avait pas réalisé. Donc, l'année dernière, on avait inscrit 1,2 million d'emprunts. On n'en a réalisé que la moitié. Donc, les 600 000, on les a reportés, on reste en réalisé. Mais on espère qu'au vu de toutes les nouvelles qu'on a de l'opération EPORA qui normalement devrait peut-être être un petit peu excédentaire, des subventions sur le stade Camille de Rochetaillée qu'on espère pouvoir toucher, on espère bien ne pas avoir à avoir recours à l'emprunt en 2025. On l'espère. Ou alors peut-être pas avec la totalité de ce qu'on a prévu, pas les 600 000 euros. Voilà. Mais ils sont inscrits, bien entendu, en recettes, parce que pour équilibrer notre budget, on ne peut pas partir sur des hypothèses. Il faut prévoir, effectivement, que si on en a besoin, on tirera l'emprunt. Voilà.
La subvention du plan de relance, troisième.
Oui, la subvention du plan de relance.
C'est environ 1,4 million. C'était validé par le dernier conseil métropolitain, donc ça, c'est acté. C'est bien. Mais ça veut dire que si on dépense davantage, on n'aura quand même que 1,4 million.
Oui,
mais c'est 1,4 million
d'acté.
Et donc l'idée, effectivement, par rapport à l'emprunt, c'est de se dire, on a un report d'emprunt de l'an dernier, 2024, qu'on va consommer en 2025. On a prévu 600 000 euros de plus au cas où, mais on espère bien ne pas être obligé d'aller tirer 600 000 euros, peut-être un peu moins, parce que quand on négocie comme ça un emprunt, on n'est pas obligé de le consommer d'un coup, pour pouvoir équilibrer l'ensemble de nos investissements.
Voilà. Donc plutôt des bonnes nouvelles, enfin oui, des nouvelles, enfin. Alors effectivement, on a eu aussi la chance d'avoir ce plan de relance, d'avoir les subventions et puis d'avoir des cessions de terrain qui nous ont quand même rapporté des sommes importantes. Voilà sur le budget 2025. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions. Voilà. Donc après, on va pouvoir attaquer toutes les délibérations qui se rattachent à ce que je viens de vous expliquer. Je vais me reprendre ma place. Merci pour votre attention. J'espère que je n'en ai pas perdu trop en cours de route. Alors, l'approbation des comptes de la première délibération est l'approbation des comptes de gestion 2024 communes et services des pompes funèbres. Alors, je vous ai pas parlé hein, dans la présentation du service des pompes funèbres, mais c'est un peu particulier comme budget. C'est ce qu'on appelle un budget de compte de stock, c'est-à-dire qu'on a au départ une valeur marchande de nos stocks qui sont essentiellement les caveaux qu'on a à vendre. On a, en cours d'année, ben, si on a besoin, on inscrit une nouvelle somme pour peut-être ben, faire des caveaux s'il n'y en a plus assez ou faire des réparations sur le cimetière. Et puis après, on a aussi des recettes qui sont bien entendu la vente des caveaux. Voilà. Mais ça représente des sommes qui sont très peu importantes. Vous verrez, enfin, je ne sais pas si vous avez regardé, mais par exemple, sur, en fonctionnement sur les pompes funèbres, on a eu 20 centimes de dépenses en 2024. Je dis qu'il faudrait peut-être la réduire de moitié parce que ça fait un peu beaucoup. Voilà. Donc, mais je vous donnerai quand même les chiffres, bien entendu, du budget de. Alors, le compte de gestion, je vous explique. Vous savez, je vais y arriver. Les comptes communaux sont tenus en double part, un peu comme une comptabilité privée, sauf que nous, on n'en tient qu'une partie de la comptabilité. C'est notre comptabilité à nous. Et la deuxième partie de la comptabilité est tenue par la trésorerie principale. Et en fin d'année, on se concerte et normalement, on doit trouver les mêmes chiffres ou sinon, c'est qu'il y a un problème. Mais normalement, jusqu'à maintenant, on a toujours trouvé les mêmes chiffres. Donc, le compte de gestion, c'est un document qui est comme ça, hein, c'est marqué dans la délibération que c'est consultable bien entendu, au service de comptabilité. Mais là, je vous donne que les résultats de ce qui apparaît sur la dernière page. Et c'est là, je pense que vous l'avez eu, cette page-là, sur les éléments. On retrouve bien, donc, le résultat de clôture, si vous voyez, de 3 118 222,57 en fin d'année 2023. Alors, ce n'est pas les 3 400 000 dont je vous ai parlé, mais c'est normal parce qu'on avait quand même, on avait déjà basculé une partie en investissement. On a affecté, on a donc les 3 118 000. On a 1 479 000 dont je vous ai parlé tout à l'heure qu'on a basculé en investissement. On avait 841 068 69 de résultats de l'exercice 2024, c'est-à-dire l'autre différence entre nos dépenses et nos recettes de fonctionnement. Et on retrouve donc bien le 2 480 164,80 dont je vous ai parlé, qui est notre excédent de fonctionnement 2024. Et vous voyez, sur les pompes funèbres, on avait en investissement 2 336 081 en fin 2023, 2 336, pardon. Je suis partie dans les millions, là, ça y est. 2 336,81 pour l'investissement, 1 380,66 pour le fonctionnement. Vous voyez, on a en fonctionnement 206,99 de recettes. Donc, on se retrouve avec, en investissement, bah, toujours un 2336,81 puisqu'on n'a pas eu d'opération. Et on se retrouve avec 1587,65 pour l'investissement. Donc, on vous demande d'approuver ces comptes de gestion de la commune, des comptes de gestion 2024, de la commune de Saint-Prié et du service des pompes funèbres qui sont donc dressés par le comptable public du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024 et qui sont bien entendu conformes aux comptes administratifs soumis au vote. Et je vous ai précisé que les comptes de gestion sont consultables en mairie. Oui. Alors, sur ces comptes de gestion, est-ce qu'il y en a qui sont contre? Est-ce qu'il y en a qui s'abstiennent? Qui est pour, à l'unanimité, je vous en remercie. Alors après, on passe au compte administratif de la commune. C'est là où on retrouve les chiffres dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc là, c'est moi qui préside le conseil municipal parce que le compte administratif, je vous le rappelle, c'est le bilan de l'action en matière de budget et de comptabilité de monsieur le maire. C'est sous sa responsabilité personnelle. Donc, c'est pas lui qui vous présente le compte administratif, c'est moi. Et en plus, au moment du vote, monsieur le maire doit sortir, puisqu'il ne doit pas prendre part au vote, puisque c'est on approuve ou on désapprouve sa gestion personnelle de la commune. Voilà. Donc, sous la présence de Madame Bizassia, adjointe chargée de la préparation des documents budgétaires, le conseil municipal donc, a examiné le compte administratif 2024 qui s'établit ainsi. Donc, je reprends les chiffres. En section de fonctionnement, pour la commune, une dépense de 11 187 617,32 €. Des recettes pour 13 667 782,12 €. Donc, un excédent de clôture de 2 480 164,80 €. Qui correspond à celui qu'on retrouve sur le compte de gestion. Pour la section d'investissement, des dépenses pour 5 339 951,27 €, des recettes pour 4 991 704,27 €, donc un déficit de clôture de 348 247 €, et un solde de reste à réaliser de 2 023 933,23 €. Alors, je vous explique les restes à réaliser. Vous savez, en fin d'année, en fonctionnement, on constate ce qu'on a, on remet tout à zéro pour l'année suivante et on repart. En investissement, ce n'est pas la même chose, puisque de toute façon, les opérations ne commencent pas le 1er janvier et ne s'arrêtent pas le 31 décembre. À l'école Jules Verne, ça sera le troisième exercice sur lequel on a des dépenses. Donc, si vous voulez, on a ce qu'on appelle les restes à réaliser en fin d'année N-1, c'est-à-dire ce qu'on avait prévu au budget, mais qu'on n'a pas forcément dépensé, qu'on n'a pas encore dépensé, parce que les travaux ont duré plus longtemps, parce que et peut-être qu'il y en a moins prévu, voilà. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les restes à réaliser, qu'on reporte automatiquement sur le budget de l'année d'après. On ne peut pas dire on les enlève. On pourrait les enlever dans les prévisions, mais les restes à réaliser doivent être inscrits au niveau du budget primitif. Donc, on a un excédent de financement, c'est-à-dire si vous enlevez des restes à réaliser, le déficit de clôture, on a un excédent de financement d'1 675 686,23 €, c'est-à-dire ce qu'on a vraiment, qu'on peut vraiment, vraiment dépenser. Donc là, je vais demander à monsieur le maire de sortir. Et c'est bien marqué hors la présence de Monsieur Servan en maire. Donc, je demande au conseil municipal de bien vouloir approuver le compte administratif 2024 pour la commune. Alors, qui s'abstient? Qui est contre? Qui vote pour? Je vous remercie à l'unanimité. Donc, on va faire dans la foulée celui des pompes funèbres. Donc, la section d'exploitation qui correspond pour un autre budget à la section de fonctionnement. On a dépensé 14 021,09 € et on a encaissé 15 608,74 €. Donc 14 000, c'est les travaux qu'on fait sur les caveaux. Les recettes, c'est ce qu'on encaisse quand les gens achètent des caveaux et des concessions. Donc on a un excédent de clôture pour 1 587,65 €. On n'est pas dans les mêmes catégories de chiffres. Pour la section d'investissement, on a dépensé 14 020,89 € et on a reçu 16 357,70 €. Donc, on a un excédent de clôture de 2 336,81 €. Donc, pareil, hors de la présence de M. Servan maire, je demande au conseil municipal de bien vouloir approuver le compte administratif 2024 pour le service des pompes funèbres. Alors, qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? À l'unanimité, je vous en remercie. Par terre ? Ne l'oubliez pas à la sortie. Hein. Alors, je vais attendre que monsieur le maire revienne. Alors, comment... Donc, les deux comptes administratifs ont été approuvés à l'unanimité. Donc, comme on a affecté le résultat tout à l'heure du budget communal, on est obligé de prendre la même délibération pour le service des pompes funèbres, donc affectation du résultat 2024. Monsieur le maire expose, en application de l'article 9 de la loi du 2 mars 1982 et de l'instruction comptable M57, après avoir approuvé le compte administratif 2024 qui présente un excédent de fonctionnement de 1 587,65 €, constatant que la section d'investissement dudit compte administratif fait apparaître un solde d'exécution globale de 2336,81 €. Donc voilà. Conformément à l'instruction M57, donc il convient d'affecter les 1587 € qui est l'excédent de fonctionnement comme suit. Comme on n'en a pas besoin, on garde l'excédent reporté de 1587,65 €. On le garde en fonctionnement et l'excédent d'investissement reporté sera donc de 2336,81 € comme il est. C'est-à-dire qu'on considère qu'il n'y a pas besoin de financer une partie de l'investissement, donc on garde tout en fonctionnement. Voilà. Donc pour cette affectation des résultats, qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Adopté à l'unanimité. Tu veux peut-être présenter les taux?
Le point suivant concerne les taux d'imposition des taxes directes locales pour 2025. Donc, comme on vous l'a laissé entendre tout à l'heure, on vous propose de ne rien changer par rapport à 2024. Et en conséquence, on vous propose une taxe foncière sur les propriétés bâties à 39%. Alors attention, hein, 39% intègre depuis maintenant 3 ans la part qui était affectée antérieurement au département. Il faut bien le comprendre. Les gens qui disent, voilà, les taux ont augmenté, regardez le montant de la taxe à payer plutôt que de regarder les taux. La taxe foncière sur le non bâti à 88,11%, on n'a pratiquement rien hein, comme non bâti. Et puis la taxe d'habitation à 10,02. Et je vous demande donc de bien vouloir approuver les taux ainsi présentés pour 2025. Des commentaires par rapport à ça? Donc on pourra écrire en journal, les impôts n'augmenteront pas en 2025. Bon, qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Donc, à l'unanimité, les taux d'imposition sont validés.
Je prends la parole pour une délibération. Il y a un cas un peu particulier sur l'école Jules Verne, justement. C'est parce que, comme c'était une opération très importante et qu'elle a lieu sur plusieurs exercices, c'est ce qu'on appelle un programme, en fait. Parce que, normalement, si on ne l'avait pas pris comme ça, les 5 millions et un peu plus de travaux, on aurait dû les mettre dès l'année où on avait décidé des travaux. Ça aurait bien entendu complètement déséquilibré le budget. On n'aurait pas pu l'équilibrer. Donc on a l'autorisation de faire ce qu'on appelle une autorisation de programme, c'est-à-dire de prévoir une opération sur plusieurs années. Et du coup, on prévoit les dépenses et les recettes nécessaires chaque année en fonction de l'avancement des travaux. Donc, Monsieur le maire expose, par délibération numéro 230306 du 27 mars 2023, le conseil municipal a adopté le principe de recours au vote d'une autorisation de programme et crédit de paiement pour la gestion pluriannuelle des investissements liés à l'extension et à la réhabilitation du groupe scolaire Jules Ferry comme suit. Donc, on avait fait une première autorisation de programme pour un montant de 4 834 341 €. On avait ouvert des crédits de paiement pour 2 070 372 37 € pour 2023 et 2 763 968 63 € pour 2024. Par délibération du numéro 240305 du 25 mars 2024, donc l'année qui a suivi, le conseil municipal a approuvé le bilan annuel 2023 de l'autorisation de programme. C'est-à-dire qu'on a dit, bon, c'est bon, sur 2023, ça s'est bien passé comme on avait prévu, a reporté les crédits de paiement non utilisés en 2023 pour un montant de 506 567,76 €. Ça veut dire que ça, c'est ce qui nous restait, qu'on avait prévu, mais qu'on n'avait pas dépensé sur 2023. On l'a donc reporté sur l'exercice 2024. Et on a révisé le montant total de l'autorisation de programme, puisque bien entendu, en cours de route, on le sait, on a eu des surprises et pas forcément des bonnes. Donc on a reporté, on est passé de 4 834 000 d'autorisation de programme à 5 291 167,72 €. Le bilan annuel de l'exécution de l'autorisation de programme et crédit de paiement pour 2024, donc là, cette année, au début 2025, on fait le bilan de 2024, pour les investissements liés toujours à l'extension et à la réhabilitation du groupe Sculger Jules Ferry, Donc, on est passé donc à un montant d'autorisation de 5 291 167,72 euros. On a ouvert des crédits de paiement pour 1 160 000, on a dépensé en 2023 1 563 804,61 euros. On a reporté des crédits de paiement pour 3 727 363 11. Enfin, on les a reportés. On a pris en crédit de paiement, c'est-à-dire ce qui nous restait de 2023 plus ce qu'on a décidé de payer en 2024. Et on a réalisé en 2024 3 176 374,46 euros. Donc, monsieur le maire propose, alors je vous passe les articles, vu l'instruction M47. Donc, considérant que l'avancement des travaux nécessite l'ajustement des crédits ouverts par autorisation de programme initial. Donc, l'approbation, donc on vous demande d'approuver le bilan annuel de ce que je viens de vous dire de l'exécution de programme. Le report des crédits de paiement ayant fait l'objet d'un engagement financier et comptable en 2024 pour un montant de 226 102,14 euros sur l'exercice 2025. Ça, c'est ce qui nous restait des crédits de paiement 2024. Et la révision du montant d'autorisation de programme en portant le montant total de l'autorisation de programme à 4 966 281,21 euros. Donc, vous voyez qu'on a un petit peu baissé. En 2024, on était à 5 291. Sur 2025, ce sera le bilan total et définitif de l'opération pour 4 966 281,21 euros. Et d'ouvrir des crédits de paiement pour 1 563 804,61 euros sur 2025. Ça c'est ce qu'on a réalisé sur 2023, je vais y arriver. Et sur 2024, 3 176 374,46 euros. Ça, c'est ce qu'on a réalisé en 2024. Et pour les crédits de paiement 2025, vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure, il reste un reliquat de 226 102,14 qui correspondent aux restes à réaliser qui sont constatés et qui vont nous permettre de finir le travaux. Donc, normalement, sur l'année 2025, on aura une opération qui sera terminée avec un bilan définitif des dépenses et des recettes de cette opération. Voilà. Donc, je vous propose de voter ces autorisations de programme. Qui s'abstient? Qui est contre? Qui est pour? Adopté à l'unanimité. Ah, j'ai sauté le budget, oui. Dans l'affectation des résultats, je l'ai fait. Non, c'est ça. Non, je l'ai fait. Ah oui, l'affectation du résultat, mais... Si, l'affectation du résultat des pompes... Non, c'est là, pardon. Oui, effectivement, j'ai oublié de... Si, l'affectation du résultat des pompes funèbres, je l'ai fait. Affectation du résultat. Par contre, je n'ai pas fait effectivement le budget. Voilà. Ah, je n'ai pas fait l'affectation du résultat de la commune. J'ai oublié, pardon. Oui, parce que c'était la délibération qui a été modifiée. Merci. Oui, alors pardon, j'ai oublié l'affectation du résultat de la commune pour 2024. Parce que... Hein? Mais tu sais, la mauvaise foi. Il faut aller jusqu'au bout. Oui, effectivement, la délibération, vous l'avez retrouvée sur table parce qu'il y avait une erreur sur celle qu'on vous avait envoyée. On avait mis un excédent d'investissement alors que c'était un déficit. Donc, je reprends la délibération de l'affectation du résultat. Donc, en application de l'article 9 de la loi du 2 mars 1982 et de l'instruction comptable M57, après avoir approuvé le compte administratif 2024, donc ce qu'on a fait avant, qui présente un excédent de fonctionnement de 2 480 164,80 euros, je pense que vous allez bien réussir à le garder, celui-ci, constatant que la section d'investissement du dit compte administratif fait apparaître un solde d'exécution global qui, lui, est négatif pour 348 247 euros, ce qu'on appelle donc un déficit, constatant que le solde des restes à réaliser 2024 se porte à 2 023 933,23 euros. On a donc un solde d'exécution global, un déficit de 348 247 euros qui correspond au déficit de l'investissement. Un solde reste à réaliser de 2 023 933,23, ça c'est ce que je viens de vous parler. Donc on a un excédent de financement, si vous voulez, un excédent sur les deux sections. On a un excédent d'1 675 686,23. Et c'est cet excédent qu'il faut qu'on répartisse d'une façon ou d'une autre. Alors, on n'a pas le choix. De toute façon, donc notre excédent reporté, qui était au départ de 2 059 936,43, l'excédent de fonctionnement capitalisé, qui est de 400... Alors ça, c'est ce qu'on va basculer de notre excédent de fonctionnement, l'investissement, le compte 1068. C'est ce qu'on va basculer en investissement pour effectivement combler le déficit de d'investissement et certainement un peu plus, puisqu'on a calculé que pour équilibrer la partie d'investissement entre les dépenses et les recettes, on avait besoin de prendre une petite partie de notre excédent de fonctionnement. Donc on va faire un report de la section de fonctionnement d'investissement à l'investissement de 420 228,37 €. Et bien entendu, on va couvrir le déficit de 348 247 €. Ce qui veut dire qu'en fait, de notre excédent de fonctionnement, on prend 420 000 et 348 000. C'est ces deux sommes-là qu'on va basculer en investissement. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a des abstentions, des votes contre pour à l'unanimité? Et la dernière délibération, et j'arrête de vous parler chiffres. Non. Ah oui, les budgets. Ouais. Donc, c'est celle-là, c'est la dernière délibération. C'est la comptabilité budget primitif 2025 de la commune et des pompes funèbres. Donc, monsieur le maire expose que, vu le débat d'orientation budgétaire qu'on a fait lors du réunion de conseil du 17 février 2025, vu la commission des finances du 4 mars 2025, il y a des élus qui en font partie, qui est obligatoire aussi pour approuver le budget, vu le projet de budget primitif, il est demandé au conseil municipal de se prononcer sur le budget primitif 2025 arrêté comme suit. Donc pour la commune, on arrête le budget, il faut de toute façon qu'il soit équilibré dans les deux sections, hein, en dépenses et en recettes de fonctionnement à 10 407 492,03 €, et en investissement, en dépenses et en recettes, 7 707 275,37 €. Et pour le service des pompes funèbres, donc en 2025, on prévoit un budget de dépenses et recettes d'exploitation à 14 694,08 € et une dépense et recettes d'investissement à 14 020,89 €. Donc voilà, ça correspond. Alors les chiffres de pompes funèbres, je ne vous avais pas donné, mais c'est... Ils sont sensiblement...
C'est la dernière année où on aura deux budgets distincts.
Oui, après l'année prochaine, seront réintégrés, ce qui sera beaucoup plus logique. Voilà. Est-ce qu'il y a des abstentions, des votes contre, pour accepter à l'unanimité?
Point suivant concerne l'attribution d'une subvention à la régie de gestion du NEC. Et pour présenter la situation et avant de prendre une délibération... Je passe la parole à Christine Gezins.
Bonsoir. Afin de mieux appréhender l'enjeu de la demande de subvention du NEC auprès de la mairie de Saint-Prié, il vous est communiqué les éléments suivants. Au titre de la saison 2024-2025, le NEC a recueilli 883 abonnements à ce jour. À la fin de la saison précédente, le nombre d'abonnés était de 839, soit une augmentation de 44 abonnés. Donc, c'est mieux. L'origine géographique des abonnés est la suivante. 302 abonnés sont sur Saint-Prié, ça veut dire à peu près 34%, 164 pour Saint-Étienne, soit 19%, et 141 abonnés pour Villars, soit 16%. Donc, globalement, si on additionne les trois communes, 69% des abonnés sont donc originaires de la commune de Saint-Étienne et de Villars. La saison 2024-2025, le NEC a proposé 19 spectacles tout public, 3 spectacles jeunes publics, 2 grands reportages et 6 spectacles pour le Festival de théâtre amateur. En 2024, la recette de billetterie est de 105 394. C'est toujours difficile de savoir à l'avance combien on va recevoir d'abonnés. La subvention municipale représente 44% des recettes d'exploitation. En dépenses, l'achat des spectacles atteint 61% des charges d'exploitation. La location de matériel technique pour les spectacles se positionne à 7%. Les charges de personnel sont de 11% et les droits d'auteur sont, dont la SACD, à 9%. Donc en 2024, le résultat d'exploitation est excédentaire de 13 052,41 €. Bon, on a fait une très bonne année. L'an dernier, je ne sais pas si vous vous rappelez, c'était déficitaire. L'excédent de 2024 est lié donc à l'augmentation des tarifs des billets de spectacle. Nous avons augmenté tous les billets d'1 €, donc forcément, en plus, on a plus d'abonnés. On a vendu aussi plus de places à l'unité. Bon, il y a des abonnements, mais beaucoup de gens viennent maintenant régulièrement pour racheter juste une place, donc, ou des gens de l'extérieur, ce qui fait qu'ils payent des places plus chères. Et puis, donc on a vendu à l'unité 200 places par rapport à l'an dernier. Donc c'est quand même important. Et puis, on recherche toujours des spectacles qui ne sont pas connus pour l'instant. C'est pour ça qu'on va à Avignon, parce que c'est là qu'on peut les découvrir. Parce qu'une fois qu'ils tournent sur Paris, c'est plus à la portée du nec, quoi. Au BP 2024, il avait été provisionné 80 000 € de billetterie. Et il a été réalisé 32% de plus. Quant aux excédents cumulés après affectation du résultat 2024, ils s'établissent à 136 718,14 €. Voilà, on a fait une bonne année, j'en suis très heureuse. Mais... j'en profite pour vous dire que le lancement de saison du NEC aura lieu le 2 juin, c'est un lundi, à 11h et 19h. Donc, je vous propose de voter une subvention totale de 83 000 € pour la régie de gestion du NEC pour l'exercice 2025.
Alors, on aurait pu dire, compte tenu des résultats du NEC, et comme j'avais dit à Christine Guezin et à Virginia Libert, il suffit d'augmenter d'1 € les places et vous engrangez tout de suite des recettes supplémentaires. L'année 2024 a été particulière au niveau du NEC, malgré ses résultats comptables et financiers. C'est l'indisponibilité de nos deux régisseurs, Jean Auffray, Dijano et puis Renaud. Tous les deux ont été malades, gravement malades pour Jeannot et puis même pour Renaud. Donc l'inquiétude qu'avait le NEC, c'était que, en fonction de ces situations qui risquaient de perdurer, il y a des difficultés parce que pour les remplacer, il faut des intermittents du spectacle. Et ça a un coût. Donc le deal passé avec le NEC, c'était de dire on ne touche pas la subvention pour 2025. Donc on vous propose de reconduire 83 000 € qui était la subvention de 2024. Charge à vous de vous organiser pour gérer ces absences à répétition et qui s'installent dans le temps. Donc la solution a été apportée par le recrutement en contrat durée déterminée d'un régisseur, compétent parce qu'il avait déjà travaillé et qui donne entièrement satisfaction et qui nous permet de voir au moins la fin de la saison avec sérénité. Donc voilà, c'est un petit peu le deal. On passe d'une problématique de budget à une problématique de ressources humaines. C'est pour ça que on vous propose de reconduire la subvention à hauteur de 83 000 € malgré les résultats qui sont très satisfaisants. Avez-vous des questions par rapport à cette situation du NEC qui est vraiment très, très, très satisfaisante? Et puis, avec des spectacles de qualité, j'en veux pour exemple le spectacle de vendredi sur une heure de philosophie qui était vraiment un spectacle remarquable. Des remarques, des questions? Donc je vous propose de passer au vote. Qui est contre le niveau de cette subvention? Qui s'abstient? Qui est pour? Donc 83 000 € attribués au NEC pour son fonctionnement 2025. Le point suivant concerne la restructuration du complexe sportif Camille de Rochetaillé et la demande de subvention auprès de la Fédération française de football. Outre la construction de nouveaux équipements pour le club de tennis, le projet de restructuration du complexe sportif Camille de Rochetaillé prévoit également la création de nouvelles infrastructures pour le club de football de Saint-Priest-en-Jarez. Ce club, souvenez-vous, on a deux niveaux, le tennis et le foot. Donc ce club de foot, créé en 1972, compte à ce jour environ 200 licenciés. et évolue au niveau R3, donc Régional 3, c'est ça? Malgré la qualité de ses entraîneurs et de ses éducateurs, le club a du mal à rivaliser avec ceux situés à proximité, notamment l'ETRA, en raison du manque d'infrastructures. À ce jour, le club dispose d'un terrain synthétique vieillissant et d'un terrain en herbe niveau T5. Selon les conditions météo, ce dernier n'est pas utilisable toute l'année et ses fonctionnements, entretien, arrosage, tonde, traçage, etc., sont estimés à environ 20 000 euros par an. Afin de répondre aux besoins du club et après avoir présenté le projet à la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de football et au district de football de la Loire, il est prévu la création donc d'un terrain de foot à 11 en herbe synthétique qui se substitue au terrain existant et d'un terrain de football à 7 en herbe synthétique qui occupera une partie du terrain actuellement en herbe. Le club bénéficiera ainsi de deux terrains utilisables toute l'année, adaptés à leurs besoins, matchs, entraînements classiques et spécifiques, et à toutes les catégories. Le coût de ce projet est estimé à 1 459 676 euros hors taxe. Celui-ci pourrait être subventionné par la Fédération française de football via le Fonds d'aide au football amateur, le FAFA. Cette contribution annuelle de la Fédération française de football d'environ 15 millions d'euros vise à accompagner exclusivement le développement et la structuration du football amateur, sous réserve de la réalisation de travaux dans les vestiaires. Le montant total de la subvention FAFA pourrait être de 39 000 euros, c'est-à-dire 15 000 euros pour les terrains, 12 000 euros pour l'éclairage et 12 000 euros pour les vestiaires. Dans les vestiaires, on nous demande en fait de créer un vestiaire plus grand à partir de deux vestiaires existants. Il faut tomber une cloison. Le plan de financement prévisionnel est le suivant. Terrain synthétique à 11, 775 609 euros. Terrain synthétique à 7, 394 039 euros. Éclairage des terrains, 242 073 euros. Maîtrise d'œuvre, 47 955 euros, soit un total de 1 459 676 euros. Et les recettes, nous vous proposons et nous espérons, 39 000 euros de la Fédération française de football, soit 2,6%. Le fonds de concours métropolitain pour 710 338 euros, 48,7%. Et donc, le reliquat à la charge de la commune de Saint-Priest-en-Jarret, 710 338 euros, 48,7%. La commune étant maître d'ouvrage de cette opération, il demandait au conseil municipal de solliciter auprès de la Fédération française de football, via ses instances déconcentrées, une subvention du Fonds d'aide au football amateur pour financer la construction d'équipements sportifs destinés à la pratique du football et de m'autoriser à déposer le dossier de demande d'aide financière et à signer tout document relatif à ce dossier et à cette demande de subvention. Des questions par rapport à ça? Donc, c'est un projet global, mais il y a une partie tennis, on l'a déjà passé, une partie foot, on est en train de vous la passer, et on verra bien dans le temps si d'autres demandes que nous avons formulées viennent à être satisfaites, je pense en particulier à l'Agence nationale du sport, mais il ne faut pas forcément se faire trop d'illusions. Des questions donc? On va essayer. Donc c'est la demande de subvention à la Fédération française de football. Pas de questions, donc qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Donc demande validée à l'unanimité, je vous en remercie. Rémi, vas-y.
J'avais pas de questions, je voulais juste faire un commentaire. Alors, on constate que la fédération participe à hauteur de 2,5% sur un projet qui est quand même d'envergure. On sait que les fédérations avec qui on travaille là, le football et le tennis, sont les fédérations les plus riches. On met à disposition pour le foot amateur des complexes de qualité et ben on voit leur niveau d'accompagnement. Voilà, merci.
On peut dire aussi simplement. En complément, c'est que sur ce dossier, depuis qu'on travaille, depuis maintenant près d'un an, on a une adhésion et une complémentarité avec le club de foot et le club de tennis. C'est vrai que là, ils sont totalement dans la démarche et c'est quand même agréable de les voir travailler ensemble avec nous. Le point suivant concerne donc les décisions du maire que j'ai prises par délégation. Bon, je n'ai pas de commentaire à faire en particulier. Il y a quelques dépenses qui tournent autour de la petite enfance, mais c'est normal, puisque c'était lié à la semaine de la petite enfance qui s'est achevée vendredi. Donc voilà, vous savez que maintenant, on l'a fait une fois tous les deux ans. C'était en 2025, donc c'est logique qu'il y ait eu quelques dépenses relatives à cet événement. Des questions par rapport aux décisions qui n'appellent pas d'ailleurs de vote de votre part. Et maintenant, on va passer au point suivant. C'est Michel qui reprend le micro, Michel Bizassia, pour le bilan des acquisitions et des cessions immobilières pour 2024.
Oui, bonjour. Rebonjour. Comme toutes les années, on fait sur l'année écoulée le bilan de ce qu'on a acquis ou de ce qu'on a vendu comme cession immobilière. Donc l'article L2241-1 du Code général des collectivités territoriales prévoit que les conseils municipaux doivent délibérer tous les ans sur le bilan de leurs acquisitions et cessions immobilières, et ce, dans le but d'apporter une meilleure connaissance des mutations immobilières réalisées par les collectivités territoriales. Donc, on l'a ci-dessous. Alors, l'acquisition, on n'en a pas faite. Hein, on n'a pas acheté de terrain. Par contre, on a fait quelques cessions. On a fait la cession du terrain de l'école Jean Massé sur la rue de Réosti pour 1 million d'euros. On a cédé un terrain au Charpenais à une société aussi pour 265 000 euros. On a cédé un terrain non bâti rue Léon Blum. Alors là, c'est un tout petit bout de terrain. C'est une régularisation, en fait, d'un bout de terrain qui, on pensait, les propriétaires pensaient que ça leur appartenait alors que c'était resté communal. Donc, on leur a cédé à l'euro symbolique. On a vendu le terrain bâti et le non bâti de la salle de l'atelier. Vous savez, on a eu plusieurs délibérations sur l'opération du centre-bourg parce que c'est compliqué. On pouvait pas mettre en même temps l'îlot qui vient d'être démoli et la salle de l'atelier. Donc,
précision. Et par convention, s'est substitué à la mairie pour acquérir le foncier. Sachant que pour la salle de l'atelier et une autre partie où il y avait l'ancien poste de police, on était propriétaire. Epora ne pouvait pas nous racheter à nous-mêmes un bien dont nous étions propriétaires. Donc c'est pour ça que Epora a acheté aux propriétaires particuliers une partie de l'immobilier pour nous le revendre et puis que nous avons vendu directement à Madame Arnaud les deux biens qui nous concernaient. Voilà.
Donc effectivement, ces deux biens, les 138 655, sont compris dans les 800 000 euros. Hein. Ce n'est pas quelque chose en plus des 800 000 euros. On a cédé un petit bout gratuitement au Transpol Avenue Mendès-France. Pareil, c'est une régularisation. Saint-Étienne Métropole pensait en être propriétaire, elle n'était pas, donc on a régularisé. Au Centre-Bourg, donc là, c'est pareil, pour 157 000 euros, c'est aussi, ça concerne également l'atelier. Voilà, donc on n'a pas fait de cession, on n'a pas fait d'acquisition, ce sont les cessions que je vous présente, qui sont connues, puisque c'est effectivement les terrains dont on parle régulièrement. Et qui sont vendus et une partie a déjà été, les sommes ont été versées, par exemple le Charpenais a été payé, d'autres sont encore comme celle du Centre-Bourg et de Jean Massé sont encore à nous régler. Voilà. Donc il faut approuver ces cessions. Pardon ? Ça ne se vote pas.
Alors ensuite, je vais vous proposer une délibération qui est assez complexe. Je vais essayer d'être clair. C'est l'adhésion au service des systèmes d'information géographique web Géoloire 42 Cadastre. Vous avez compris, c'est pour gérer l'ensemble des problématiques cadastrales. On est donc de plus en plus dans le dématérialisé. Le service proposé donc par le syndicat intercommunal d'énergie du département de la Loire, Ciel, territoire d'énergie Loire, dont on parle assez souvent, pour l'accès à la plateforme SIG Web départementale qui s'appelle Géoloire 42 R Cadastre. L'offre proposée par le Ciel comprend un accès individualisé et sécurisé donc au fameux portail Géoloire 42. Un accès à l'application Géoloire 42 Cadastre, c'est-à-dire l'exploitation du plan et de la matrice cadastrale, la mise à jour annuelle des tombées cadastrales et fourniture des données cadastrales au format magique. Rien de magique, mais c'est son nom, sur demande, assuré par le Ciel, l'intégration et la consultation du plan local d'urbanisme, s'il est numérisé selon les standards du CNIG, la consultation des réseaux électriques et gaz mis à jour chaque année, l'accès aux données intercommunales départementales si disponibles sur le territoire, l'accès aux données du référentiel à grande échelle de l'IGN et aux données en open data, l'accès à l'orthophotographie départementale issue du partenariat avec le CREG, accès au plan de corps de rue simplifié, s'il est disponible sur le territoire. Donc on nous propose des accès à condition que ça existe, c'est un peu logique, mais ça c'est l'habitude avec le ciel. La formation à Géoloire 42 CADAS, donc c'est sur demande, c'est l'appropriation du nouvel outil, et l'accès à l'application Géoloire 42, THD, très haut débit 42, outil d'aide à la décision pour le raccordement au réseau fibre optique. Donc ce service propose également les options suivantes. Alors la passerelle, je vais vous passer le détail, hein, vers ADS, la portabilité, donc qui permet la visualisation et la modification en mode déconnecté sur tablette et smartphone. Donc on peut consulter ce cadastre dématérialisé à partir de son outil personnel. Grand public, dans l'interface grand public, diffusion des données ouvertes via Internet. Donc vous pourriez éventuellement vous connecter à cet outil cadastral. Et la création de données propres à la collectivité par thématique, les réseaux d'eau, l'assainissement, la signalisation, les points de collecte, etc. Forfait qui inclut l'occupation du serveur et la mise à jour des données existantes dans l'application. Pour l'intégration de nouvelles données par le ciel, un devis sera proposé selon le tarif à la journée. L'adhésion à l'offre de base est prise par délibération du conseil municipal pour une durée de 6 années civiles. Au-delà de ces 6 années, elle est renouvelable annuellement par tacite reconduction. Le montant de la contribution annuelle est lié au classement de la collectivité. Ça va de A, c'est un petit peu comme les diagnostics thermiques. Ça va de A à F. Saint-Prié-en-Jarret étant classé en B. Le montant de la cotisation sera révisé chaque année à partir de l'indice Syntec communiqué par la Fédération Syntec pour mieux prendre en compte les évolutions du coût de la main-d'œuvre intellectuelle pour les prestations fournies. L'adhésion aux options est possible à tout moment et jusqu'à l'échéance de l'adhésion principale, le montant de la contribution s'ajoutant à celui de l'offre de base. Donc on paye une adhésion de base et on choisit des options. Les communautés de communes peuvent également adhérer en lieu et place des communes qui leur ont transféré cette compétence. La contribution est alors la somme des contributions qui auraient été versées par les communes isolément. Je vous demande donc de bien vouloir décider d'adhérer à Géoloire 42 Cadastre, à l'offre de base, à compter de l'exercice de l'année 2025 pour une durée de 6 ans. S'engager à verser les cotisations totales annuelles correspondantes selon l'année en cours, pour 2025, c'est 425 euros. S'engager à être en conformité avec la réglementation générale de la protection des données, décider d'inscrire au budget les crédits nécessaires pour les cotisations et m'autoriser à signer toutes les pièces à intervenir. Donc, on ne choisirait que l'option de base. Donc, c'est une nouvelle version proposée par le ciel, de la gestion cadastrale, on vous le voyez bien, dématérialisée évidemment, avec plus de facilité d'accès, une formation prévue en particulier pour nos agents qui l'utilisent régulièrement. Des questions par rapport à ça? 425 euros par an. Donc on va mettre au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Donc adhésion validée à l'unanimité et je vous en remercie. Le point suivant, c'est Mireille Papin qui va nous en parler puisqu'il s'agit de la convention de réservation de logement en flux avec les bailleurs sociaux.
Bonsoir à tous. Donc, faisant suite aux dispositions de la loi Élan généralisant la gestion en flux annuel des droits de réservation des logements locatifs sociaux, pour mémoire, je vous rappelle qu'avant, la commune disposait d'un contingent de logements, c'était fléché commune de Saint-Prié-en-Jarret, et que la loi Élan est revenue sur cette proposition de logement fléché et demande à ce que ce soit maintenant un contingent de flux avec les bailleurs sociaux. C'est-à-dire que lorsque des logements se libèrent, qui étaient fléchés commune de Saint-Prié, on n'a plus forcément un droit de regard sur ces logements. Et ce sont les bailleurs qui attribuent, enfin qui nous contactent pour que l'on puisse délibérer sur la destination de ces logements. Ce qui impliquait que, en fait, avec cette convention, nous n'avions quasiment plus de regard sur les logements sociaux. Et non seulement ça, mais on avait des difficultés de communication avec les, pour le dire gentiment, avec les bailleurs. Certains bailleurs, tout à fait. Il y a toujours un bailleur qui est le toit forésien avec qui n'était pas du tout concerné, puisqu'il nous avertissent de tout logement qui se libère et on est convoqué à toutes les commissions d'attribution. Donc, cette loi Élan a été. Ça remonte à avril 2023. Monsieur le maire a sollicité par écrit tous les bailleurs sociaux implantés sur son territoire pour faire un point sur ces nouvelles conventions de réservation qui devaient être signées par les réservataires avant novembre 2023. La plupart des bailleurs sociaux n'ont pas répondu et ont adressé à la commune une convention de réservation type à faire valider par le conseil municipal. En l'absence de discussion préalable sur le contenu de ces conventions, le conseil municipal a donné un avis défavorable à toutes les conventions proposées par les bailleurs sociaux. Ayant appris que certaines communes avaient amendé les conventions type proposées par les bailleurs, la commune de Saint-Priest-en-Jarez a décidé de rédiger un nouveau document, approuvé lors de la séance du conseil municipal du 1er juillet 2024 et envoyé à tous les bailleurs concernés. Ça ne leur allait pas, ils sont revenus un peu dessus. Et en fait, on a eu une nouvelle concertation et cette fois, on a pu les avoir autour de la table, tous les bailleurs sociaux, en janvier 2025. Et donc, après cette nouvelle concertation entre les différents organismes et la commune, la convention a été complétée et établie pour une durée de 3 ans avec les bailleurs sociaux, qui réintègre des relations entre eux et nous et qui permettent que l'on puisse de nouveau proposer aux demandeurs qui viennent à la mairie pour faire des demandes de logement, que l'on puisse intervenir utilement et favorablement pour eux, pour pouvoir leur procurer des logements. Les bailleurs ont compris quand même que leur intérêt, c'était aussi de s'adresser à nous et que l'on puisse avoir des relations avec eux au sujet de ces logements.
Alors, l'intérêt des bailleurs, il est déjà immédiat. C'est que quand ils ont un projet immobilier avec des emprunts, c'est la commune qui se porte à caution. Donc, s'il n'y a pas de convention, il n'y a pas de cautionnement. Donc, voilà. Donc, il n'y a pas de financement pour eux. Donc, c'était le premier point. Le second point qu'on a obtenu, c'est d'être guichet numéro 1. Tu vas peut-être le dire.
On a parallèlement souhaité pouvoir, lorsque les demandeurs font une demande de logement, ils doivent passer par une plateforme qui s'appelle le SNE. C'est une plateforme d'enregistrement qui leur donne un numéro unique qui est valable chez tous les bailleurs sociaux et qui permet de leur attribuer un logement. Cette plateforme, depuis que nous sommes élus sur cette mandature, nous avons réglementé un droit d'accès parce que nous recevons Muriel, qui est notre technicienne logement sur la commune, qui reçoit des gens tous les vendredis après-midi pour connaître leurs besoins en logement. On n'accédait pas à cette plateforme qui nous donne tous les renseignements nécessaires pour pouvoir utilement en discuter avec les gens et les aiguiller. Eh bien, ça y est, cette fois, en même temps qu'on est revenu sur ces relations avec les bailleurs sociaux, on accède maintenant, alors juste pour un droit de regard, on n'enregistre pas les demandes, c'est uniquement un droit de regard, mais ça nous permet de voir la situation des personnes, et donc ça nous a été accordé, et on, voilà. Donc on peut maintenant recevoir et avoir tous les renseignements au sujet des personnes que nous devons aider.
Ça nous permet de savoir où on est dossier, et puis surtout aussi de savoir si des propositions ont été faites aux demandeurs et qu'ils les ont refusées. Parce que la personne venait souvent au bout de quelques mois, disait à Muriel, je ne comprends pas, j'ai fait une demande, je n'ai pas de nouvelles, etc. Et en fait, maintenant qu'on peut rentrer dans le SNE, on s'aperçoit que s'il y a eu des propositions, mais qu'ils les ont refusées. C'est quand même un élément important dans la gestion d'un dossier de demandeur d'un logement social.
Donc je vous demande donc de bien vouloir approuver cette convention et m'autoriser à la signer.
Je crois que l'attitude qu'on a eue de fermeté, Alors, parce que dans la boucle, il y avait aussi Saint-Étienne Métropole. Et donc la direction, oui, de l'habitat social. Donc, ça a un petit peu secoué le cocotier, je dirais, parce que qu'on ait un refus global de signature de convention, alors que d'autres communes qui étaient plus récalcitrantes que nous avaient signé, ils se sont dit il se passe quelque chose. Donc, c'est sous l'égide de Métropole qu'on a pu se remettre autour d'une table. Donc, on a eu raison de dire non, vous nous prenez pour des imbéciles. Avant, on avait, sur, je pense au toit forésien, sur un immeuble, peut-être 3 logements réservataires. Ça veut dire quand il était libre, on nous demandait en priorité quelles étaient les personnes qu'on voulait mettre dedans. Aujourd'hui, avec les flux, on nous disait ben, sur le parc, vous avez 0,3 ou 0,4 logements. C'est-à-dire qu'on n'avait rien du tout. Bon. Donc, on ne nous demandait pas notre avis. Sauf le toit forésien qui a toujours été dans le consensus. Voilà, donc l'idée, c'était de faire bouger les lignes pour que chacun s'y retrouve, puis surtout pour que nous, on ait les éléments d'appréciation de la situation des demandeurs. Vous avez d'autres questions? Bon, c'est simplement la fin d'un petit bras de fer qu'on avait lancé avec les bailleurs sociaux et Métropole, indirectement, qui ne comprenaient pas pourquoi on avait refusé alors que toutes les autres communes avaient accepté. Bon, bah peut-être. Et nous, on a estimé, puis on a des pointures du logement social parmi nous, donc ils savaient lire entre les lignes. Je pense à Mireille qui en vient, à Isabelle qui est encore. Non, c'était important quand même qu'on ne nous dise pas, voilà, c'est comme ça, c'est pas autrement, vous signez, vous n'avez rien à dire. Ben, si, on a quelque chose à dire, surtout que pour les emprunts, c'est quand même nous qui apposons notre signature. Et vous avez dans la liasse de documents budgétaires et financiers l'ensemble, vous regarderez, vous gratterez dans les pages 90 ou 100, l'état des prêts en cours garantis par la commune. Vous verrez que ce n'est pas neutre. Hein. Donc voilà, c'était donnant-donnant, on a trouvé un consensus. On vous demande maintenant de valider. Avez-vous d'autres questions? Des questions? Donc on va mettre aux voix. Isabelle, non? Pas de questions? C'est Jacques qui te perturbe? Ah, je vois bien. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Je vous en remercie. C'est quand même l'aboutissement d'un travail qui a été assez long et tendu. Hein. Merci à vous. Le point suivant concerne, et ce n'est pas neutre, une modification du règlement intérieur de la cantine, du périscolaire. Et je passe la parole à Michel.
Oui, effectivement. Alors la délibération dit que Monsieur le maire expose, lors de la séance du 1er juillet 2024, le Conseil avait modifié et approuvé le règlement intérieur des services de la cantine et de l'accueil périscolaire. On avait déjà inclus dans le règlement la possibilité d'exclure des enfants dont l'attitude n'était pas conforme à ce qu'on attendait d'un enfant à la cantine, c'est-à-dire des enfants violents, perturbateurs, après avoir bien entendu prévenu les parents, après les avoir exclus d'abord une quinzaine de jours pour essayer de voir s'ils pouvaient comprendre que leur attitude n'était pas la bonne et que il valait mieux en changer, et ça nous est arrivé 2 fois d'exclure définitivement des enfants qui, malgré ça, n'arrivaient pas à se contrôler et des parents qui n'étaient pas très compréhensifs non plus pour comprendre que leurs enfants pouvaient perturber la cantine. Et là, il y a une nouvelle circulaire préfectorale qui est arrivée, donc on nous met compte tenu des recommandations préconisées par la circulaire préfectorale du 24 février 2025, donc vous voyez qu'elle est très récente, relative aux problématiques dans la gestion quotidienne de ces services municipaux, il convient de modifier le règlement actuel. Alors on le modifie en fait parce qu'il a été inclus la possibilité pour les communes de mettre dans leur règlement une procédure en cas d'impayé. Parce que là aussi, on constate de plus en plus d'indiscipline, mais on constate aussi de plus en plus d'impayés au niveau de la cantine. Et donc, on donne maintenant une possibilité à la commune, qui est organisatrice du service. Hein. Je vous rappelle que la cantine est quelque chose de tout à fait facultatif. Les communes décident ou non de l'organiser. Nous, il y a très longtemps que la cantine existe au Saint-Prié, donc on n'a jamais voulu remettre ça en question. Mais c'est notre règlement à nous, ça n'a rien à voir avec l'éducation nationale, ce sont nos services, ce sont nos agents. Donc effectivement, là, la circulaire nous permet de éventuellement, en cas de défaut de paiement, de procéder à l'exclusion. Alors ça ne se fait pas comme ça. Il est bien précisé, donc on l'a mis dans le règlement, et je vous le dis comment ça a été écrit. L'accès au service peut être refusé à un élève dès lors qu'il n'est pas payé. Alors, dès lors que le service n'est pas payé, hein, c'est pas l'élève qui n'est pas payé, c'est le service. Donc, c'est quand même très, très formel, hein, ça correspond à comment dire, une, Oh, je trouve plus mes mots ce soir, je suis désolée. Donc, on fait une première lettre de relance ou un courriel, donc aux parents, aux responsables légaux, en indiquant les solutions amiables qui peuvent être trouvées. C'est-à-dire qu'on peut proposer aux parents de payer sur plusieurs fois, de voilà. Si, à la suite de ce premier courrier, les parents ne bougent toujours pas, et je vous rassure, ça nous arrive souvent, quand on voit on discute un peu avec les dames de l'accueil, on se rend compte que nous, à l'heure actuelle, ce qu'on fait, c'est qu'on fait des rappels, et au bout d'un moment, quand les parents ne payent toujours pas, on envoie au trésor public, on le fait en titre de recette. Et après, c'est le trésor public qui fait les poursuites, mais je ne vous explique pas le temps qui se passe avant qu'on puisse récupérer les sous. Donc, à l'absence du retour à la suite du premier courrier ou du courriel, une seconde lettre de relance est faite où on redit la même chose en disant que s'ils veulent bien se présenter à la mairie, on pourrait étudier des solutions et puis s'ils pouvaient payer un peu, ça serait pas mal. Si à l'issue du second courrier ou du courriel de relance et sans réponse des responsables légaux, on donne bien entendu un délai à ces gens aux personnes pour répondre, on envoie un troisième courrier pour leur dire qu'ils peuvent se rendre au CCAS. On considère que les gens qui ne payent pas ont des soucis particuliers et qu'effectivement, le CCAS est là pour ça. Et c'est vrai que dans quelques cas, ça peut être effectif. Enfin, dans quelques familles, ça peut être effectivement le cas hein, d'avoir des difficultés. Donc, il n'est pas question d'expulser l'enfant par exemple, pour lui, ça représente le seul repas à peu près correct qu'il prend dans la journée. Et effectivement, le CCAS peut prendre le relais, peut aider, peut voir comment les familles peuvent payer. Voilà. Mais si à ces trois courriers-là, il n'y a aucune réponse, c'est que visiblement, soit les parents sont vraiment de mauvaise foi, soit ils ne veulent rien entendre. Et à ce moment-là, effectivement, à l'issue de ces trois étapes, si aucune solution n'a été trouvée et que, bien entendu, le paiement est toujours dû, sans compter tous ceux qui se sont accumulés depuis qu'on fait ces trois courriers, parce que, bien entendu, les enfants continuent à aller à la cantine, la commune produira un titre exécutoire, donc c'est ce que je vous dis, par rapport au trésor public, afin de récupérer sa créance et exclura l'élève concerné ou lui refusera l'accès au service de restauration scolaire. Ce qu'on ne pouvait pas faire avant. C'est-à-dire qu'on ne pouvait pas refuser les enfants, on ne pouvait pas les expulser, sauf pour des raisons disciplinaires. Là, ce sont pour des raisons financières. Voilà. Donc, la circulaire préfectorale, il est précisé qu'elle est consultable sur le site Internet et il y a l'adresse Internet. En sachant que normalement, et puis on a modifié aussi un tout petit peu, vous ne l'avez pas sous les yeux, on a modifié aussi la façon d'expliquer comment il faut réserver les repas. Les trois flèches là, parce que les parents n'ont toujours pas compris qu'ils ont jusqu'au lundi de la semaine en cours pour inscrire leurs enfants pour la semaine suivante. J'entends encore en conseil de classe qu'il faut inscrire les enfants 15 jours avant. Non, s'ils les ont inscrits aujourd'hui, ils peuvent aller les manger lundi prochain. Donc pour moi, ça ne fait pas 15 jours, ça ne fait même pas une semaine. Mais ils n'ont toujours pas compris ça. Et puis comme nous a dit un parent l'autre fois, à une de nos agents d'accueil, j'ai autre chose à faire que d'inscrire mes enfants à la cantine. Bon, écoutez, voilà.
Nous, on a autre chose à faire que de les accueillir.
Voilà, et nous, on a autre chose à faire que de les accueillir. Voilà, donc ça, c'est pour réexpliquer. Et puis surtout, on a voulu inclure ce service-là parce que c'est vrai qu'il y avait des familles, mais on constate quand même que sur les impayés, les familles qui ont des difficultés, c'est pas la raison majeure, c'est de la mauvaise foi. Moi, j'ai envoyé un courrier à une dame parce qu'en lui rappelant tout ce qu'elle nous devait, elle m'a rappelé 15 jours après en lui disant « Mais je comprends pas, j'ai pas reçu votre courrier. » Bon, déjà, je sais pas pourquoi elle m'appelle parce qu'elle a pas reçu mon courrier. Mais elle a quand même payé. Elle n'avait pas reçu le courrier. Bon, c'est bizarre. Mais enfin, elle n'a pas tout payé. Elle a payé la cantine. Alors, par contre, on n'a pas pu faire la même chose pour le périscolaire parce que dans la circulaire, ce n'est pas précisé que ça concerne aussi le périscolaire. Parce que les mêmes familles ne payent ni la cantine, ni le périscolaire et utilisent ni pour l'enfant jeunesse, mais utilisent bien entendu tous ces services de façon très régulière.
Alors, voilà. Le décalage réservé au plus tard le lundi pour la semaine suivante, c'est une contrainte qui nous est imposée par le CDAT. Parce qu'ils préparent leur menu à l'avance, une semaine à l'avance, ils passent leur commande. Et le constat qui avait été fait il y a quelques temps, c'est qu'on avait parfois, pour certains repas, près de 30% des produits qui étaient jetés. Alors qu'aujourd'hui, on savait très bien, vous l'entendez, hein, que partout, circuit court, développement durable, économie au niveau des repas. Donc ils nous demandent simplement, effectivement, le lundi, pour la semaine suivante le nombre d'élèves inscrits.
Ben oui, quand, à la mesure où on fait plus de 1000 repas par semaine, on peut quand même difficilement commencer. C'est ce que j'essaie d'expliquer aux parents au conseil d'école. On peut difficilement dire qu'ils vont aller faire leurs courses au casino la veille et puis qu'ils vont s'adapter en fonction du. Mais les parents, ils n'ont pas le temps d'inscrire leurs enfants à la cantine.
Alors il y a un autre élément qu'on ne soulève pas, mais qui nous est permis par la loi.
Oui.
C'est qu'on pourrait, refuser l'inscription d'un enfant à la cantine si l'un des deux parents ne travaille pas. Oui, il dit qu'il n'est pas d'accord, mais comme ça, hein, moi c'est comme ça que j'ai lu.
Moi aussi.
Non ? Bon, après, peu importe, on ne le fait pas. Mais ça va être dans les tuyaux, parce que là aussi, des parents dont un ne travaille pas, voire les deux, qui laissent leur enfant à la cantine, qui le mettent au périscolaire à 7h30, qui viennent le chercher au périscolaire à 18h30 et qui ne payent pas.
Voire 18h45.
On est en droit de s'interroger. Voilà. Et c'est souvent les plus râleurs. Donc voilà. Donc on vous demande simplement d'approuver la modification du règlement intérieur par rapport à ce dispositif de gestion des impayés qui sanctionne par le refus d'accueillir l'enfant à la cantine. Des questions ? Alors, qui est contre ? Qui s'abstient ? Qui est pour ? Donc, on valide à l'unanimité la modification du règlement intérieur de la cantine. Le point suivant, et je demanderai éventuellement à Claude Bougaud de compléter, c'est la. On vous propose une convention de mise à disposition d'un terrain communal pour la création d'un potager et d'un jardin aromatique. L'école de la deuxième chance, E2C, dont les objectifs sont le développement des apprentissages et la valorisation des acquis des élèves par une pédagogie active et personnalisée de l'école, a sollicité l'aide de la commune afin de mettre en place un projet lié au travail de la terre, de la nature et du développement durable. Donc on a rencontré les représentants de l'école de la deuxième chance. Ils ont une douzaine d'antennes sur le territoire national, dont une qui était à Saint-Étienne et qui vient de s'installer à Saint-Prié. C'est la raison pour laquelle on les a rencontrés. Ils prennent en charge des jeunes, soit qui sont sortis du circuit scolaire, soit qui sont en rupture professionnelle. Je crois que c'est environ 170 ou 180 élèves stagiaires sur le cycle d'une année. Et ils les accompagnent avec un gros travail d'identification des capacités, des aptitudes, avec un rythme d'une semaine d'enseignement et une semaine en extérieur, en stage, etc. Et donc, ils nous ont sollicité par rapport à ces activités donc, et de pouvoir créer donc, la création d'un potager pour l'approvisionnement de la cuisine de l'école et d'un jardin pédagogique composé de plantes aromatiques. Donc, on les a rencontrés, ils ont vu le CRÉ, on a défini une zone avec eux et par la présente convention, la commune de Saint-Prié-en-Jarret met à disposition de l'association E2C qui est une association reconnue par l'État, qui reçoit des subventions. On va voter demain, après-demain au Conseil métropolitain, une subvention de la métropole pour leur permettre de fonctionner. Donc c'est vraiment une entité reconnue. Donc mettre à disposition de l'association E2C une partie de la parcelle de terre AC287 dit Pressagnol, soit environ 400 mètres carrés pour une durée de 3 ans. La mise à disposition du terrain par la commune est consenti à titre gracieux et je vous demande donc d'approuver cette convention et de m'autoriser à la signer. Si vous avez des compléments d'information, je pense que Claude pourra éventuellement préciser. Vas-y Claude, non ?
Non, mais c'est juste pour vous dire que qu'il y aura deux jardins. Un jardin potager qui sera uniquement pour E2C, hein, donc ceux qui vont le cultiver, et ça alimentera une partie de leur cuisine pour les repas. Et il y a un deuxième terrain qui sera un jardin aromatique qui sera à disposition de tout le monde, qui sera le public. Donc les gens pourront venir le visiter, éventuellement prendre un petit peu des herbes aromatiques. C'était comme ça qu'a été vu le projet avec Michel Clémenceau. Donc vous voyez où se situe le terrain à peu près, ouais.
Je crois une photo ou un plan. Hein.
Ouais.
C'est dans le bas du Pressagnol, je dirais presque en bordure du chemin des Biers,
ouais.
La partie urbanisée.
Il va arriver le plan.
Donc nous, ça nous a semblé intéressant comme démarche. Ils ont des bons résultats. 60% de réussite. Hein.
70% de réussite.
70% de réussite dans l'accompagnement de ces jeunes adultes. Alors, ils ne travaillent pas tout seuls. Hein. Ils sont avec France Emploi, ils sont avec la mission locale, ils sont avec tous les partenaires qui cherchent à réintégrer les jeunes ou les jeunes adultes sortis de la vie professionnelle. Ce qui est intéressant dans la démarche, c'est aussi d'aller chercher les aptitudes des uns et des autres pour leur proposer des filières. Alors là, c'est le jardinage, mais certaines, c'est le bois, ça peut être la mécanique ou des choses comme ça.
Mécanique, ils ont même une télévision, une radio, ils font tout un tas de choses.
Donc pour les sensibiliser à tout ce qui est un petit peu multimédia, c'est vraiment intéressant dans la démarche. C'est une école nationale qui vit avec les subventions des collectivités. Ils ne nous ont pas demandé de participation financière. Hein.
Aucune.
On les a rencontrés, mais peut-être qu'ils viennent taper à la porte, ce qui n'est pas le cas. Donc c'était une rencontre intéressante et puis un projet qui nous semble porteur.
Tout à fait. En plus, on a vu des gens qui étaient très motivés dans les encadrants. Et je pense que c'est une bonne chose pour tout le monde, pour nous aussi, parce qu'il y a une petite partie du terrain. Je vais vous faire voir qu'à peu près, voilà, qui est ici, là, tout en bas du... Bon, c'est le Cré. La route, comment ça s'appelle celle-là, chemin des Biers. Donc, le premier. Donc là, on avait fait un premier arboretum, un deuxième ici. Et là, c'est le jardin potager qui sera accessible par le petit chemin de traverse. Donc là, le jardin aromatique ici et le potager là. Ils auront un petit accès ici pour garer leur véhicule et pour accéder jusqu'à leur terrain. Vous avez des questions, des précisions?
Donc, je dirais encore une initiative qui est intéressante. Alors, on en aura d'autres dans les mois à venir. On a des petits projets qui apparaissent sur la commune. On rencontre des gens qui sont porteurs de projets, qui sont... Alors, des démarches très intéressantes.
Oui, donc avec E2C, on a aussi un autre projet. C'est le rocher du... Ah, je me trompe tout le temps de bouton. Le rocher du Loup qui est un peu plus haut. On l'a pas plus haut. Ouais. Le rocher du Loup qui est... Faut que je trouve le bouton. Ouais. Par ici. Ici, là. Là, pour ceux qui connaissent, il y a une petite falaise. Et on voulait créer un accès du Cré jusqu'à la petite forêt, enfin le bois qui est en dessous, voilà, ici. Et pour ça, il y a beaucoup de travaux, il faut faire des escaliers, il faut le sécuriser. Donc ça demande du temps, du budget. Et du coup, comme ils recherchent aussi ce genre de travaux à faire, ils sont proposés à le réaliser. Donc ça, c'est en projet pour le moment. Avec un peu de chance, ça se réalisera dans le courant de l'année.
Sachant qu'on a également un partenariat qui se met en place avec le lycée de Montravel.
Avec le lycée Montravel aussi.
Montravel.
Le campus, oui, surtout pas le lycée. On s'est fait reprendre là-dessus, donc bien le campus. Oui, alors il y a deux projets sur le campus là, qui seront décidés au mois de mai. Donc il y a un premier projet qui est sur le Cré. Alors le Cré, c'est quand même un site assez exceptionnel au niveau géologique, parce que le Cré, c'est un ancien geyser de type Yellowstone qui s'est éteint il y a 300 millions d'années. Il y a le château avec les vestiges, il y a les arbres, il y a la faune. Donc le but, c'est de faire un parcours tout autour du Cré, après qui descendra sur le Pressagnol, mais un parcours qui est à la fois ludique et pédagogique. Donc on va présenter le Cré dans sa globalité. Donc il y aura tout un cheminement à faire avec des panneaux, des explications, et ça sera fait en collaboration avec le campus de Montravel. Et Nature et Patrimoine, oui. Et il y a un autre projet qui est un petit peu plus bas. Voilà. Par ici. Toujours le même bouton. L'optation en question. Descends un peu plus bas encore. Ouais, parfait, là. Juste au-dessus du terrain, là, du potager, il y a une source. Et le but, c'est de faire dans ce petit cercle-là un espace fraîcheur. Un espace fraîcheur pour que les gens qui passent par le chemin, puissent s'asseoir, se détendre, tout en étant à l'abri du feuillage des arbres, avec des bancs, avec tout un tas de petites choses sympathiques, et avec une vue sur le versant sud de l'Étroit et du terrain de foot. Donc voilà, c'est un projet qui est en cours aussi avec le campus. On en aura d'autres après.
Donc, qui est contre cette convention de mise à disposition de 400 mètres carrés, qui s'abstient, qui est pour. Donc, à l'unanimité, on valide ce projet. Et je remercie les acteurs. Le dernier point, je dirais presque maintenant comme à chaque conseil, c'est l'actualisation de nos emplois permanents, donc création, transformation et suppression de postes. Conformément à l'article L313-1 du Code général de la fonction publique susvisé, les emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés par l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement. Il appartient donc au conseil municipal de fixer l'effectif des emplois nécessaires au fonctionnement des services. Donc je vous propose, alors c'est toujours, et vous le savez, dans la perspective d'éventuelles promotions ou déroulement de carrière qui seraient validées, il faut que les postes soient créés dans notre état des emplois permanents. C'est pour ça qu'on a des créations, des transformations et des suppressions. Donc, on vous propose la création d'un poste de rédacteur à temps complet, un poste d'ingénieur à temps complet, un poste de technicien à temps complet, un poste d'agent de maîtrise à temps complet, deux postes d'adjoint technique principal de première classe à temps complet, un poste d'éducateur de jeunes enfants de classe exceptionnelle à temps complet, un poste d'auxiliaire de puériculture de classe supérieure à temps complet, un poste d'agent spécialisé principal de première classe des écoles maternelles à temps complet et un poste d'adjoint du patrimoine à temps non complet, 22h30. Ça, ce sont les créations dans les perspectives des promotions. La transformation de un poste d'adjoint administratif à temps non complet, 63,97%, en un poste d'adjoint administratif à temps complet, un poste d'adjoint technique principal de première classe à temps complet en un poste d'adjoint technique principal de première classe à temps non complet, 80%, et un poste d'adjoint d'animation à temps non complet, 75%, en un poste d'adjoint animation à temps complet. Et enfin, la suppression d'un poste de rédacteur principal de première classe à temps complet et d'un poste d'auxiliaire de puériculture de classe normale à temps complet. Et de porter donc les emplois permanents ouverts de la commune comme annexé dans le document qui est joint. Donc à un moment donné, on a beaucoup plus de postes qu'on a d'agents effectifs, évidemment. Quand les promotions auront été notifiées ou pas, on ressortira ces postes non pourvus de notre état des effectifs. Des questions par rapport à ça? Il n'y a pas grand-chose à en dire, on vous les présente au moins tous les deux conseils. Voilà. Donc, qui est contre, qui s'abstient, qui valide cet état des effectifs à l'unanimité, et je vous en remercie. Je voudrais conclure, même si je l'ai déjà fait auprès de certains élus, sur un courrier qu'on a reçu. Vous savez que la commune, lors du dernier conseil, a décidé d'octroyer 3 000 euros pour les sinistrés de Mayotte, et on avait la possibilité de passer par l'AMF 42. L'AMF 42, c'est l'Association des maires de France de la Loire, 42, qui collectait, en fait, qui nous incitait à faire des dons avec différents bénéficiaires. Et nous avions opté pour que ces 3 000 euros soient versés à la protection civile dans le cadre de leurs interventions sur Mayotte. J'ai reçu un courrier, objet remerciement pour votre soutien à nos actions à Mayotte. Monsieur le maire, je souhaite, au nom des 32 000 bénévoles de la protection civile, vous exprimer notre profonde gratitude pour le précieux soutien que votre collectivité a apporté à nos actions humanitaires à Mayotte. Grâce à votre appui, nous avons pu intervenir efficacement aux côtés des élus locaux de Mayotte pour soutenir les populations locales confrontées aux conséquences du cyclone. Votre contribution financière a permis de renforcer notre capacité à fournir une assistance d'urgence pour aider les familles touchées. Depuis le début de la crise, nos bénévoles ont pu distribuer denrées alimentaires et eau, déblayer de nombreuses communes, permettre le retour à l'habitabilité ouvrir un dispensaire de soins et organiser des maraudes sanitaires. Vos efforts témoignent de votre engagement envers la solidarité et la résilience collective, valeurs essentielles qui nous permettent d'agir sur le terrain avec réactivité et efficacité. Nous tenons à souligner que votre aide est déterminante pour le succès de nos opérations et pour entamer la reconstruction du quotidien des populations mahoraises. Nous vous remercions sincèrement, ainsi que votre conseil municipal, pour votre engagement à nos côtés et restons à votre disposition pour vous transmettre un bilan détaillé de nos actions et pour toutes les informations complémentaires, etc. Voilà. Donc ça fait plaisir aussi que, d'abord, on a fait une bonne action, mais qu'elle soit reconnue, qu'on ait ses remerciements. Voilà, si vous n'avez pas d'autres questions, je considère que le conseil est terminé. Et je vous souhaite une très bonne soirée à toutes et à tous. Merci.